BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Guillaume Paul.
18h, bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business dans l'actualité ce soir. Il y a donc cette rumeur, cette fausse rumeur que Gabriel Attal s'est dépêché de venir démentir à l'Assemblée. Non, le gouvernement ne puisera ni dans le livret A, ni dans l'épargne en général pour aller chercher quelques milliards supplémentaires. On va écouter le Premier ministre dans un instant. Sinon, à Taïwan, figurez-vous que le leader mondial des semi-conducteurs, TSMC, a interrompu brièvement, dit-il, sa production après le séisme qui a frappé l'île la nuit dernière. Brièvement. Ça peut vouloir tout dire et son contraire, et ça inquiète beaucoup, beaucoup de secteurs industriels. On va aller sur place dans un instant, on parlera de ça avec nos experts dans quelques minutes, et puis on parlera aussi de cette loi qui est arrivée à l'Assemblée pour booster l'attractivité de la place financière de Paris. On parlera de la polémique sur les polluants éternels. Il y avait beaucoup de monde devant l'Assemblée, 600 salariés du groupe SEB aujourd'hui pour manifester contre cette proposition de loi. Et puis on parlera du classement Forbes qui est arrivé à leur 8 et leur Swift. Taylor Swift est dedans, mais vous avez quand même aussi 11 Français qui débarquent dans le classement le plus couru du monde. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc ce séisme, pour commencer, qui a frappé Taïwan, séisme d'une magnitude supérieure à 7 la nuit dernière, le dernier bilan fait état d'au moins 9 personnes tuées et de plus de 9000 blessés. L'une des conséquences immédiates, c'est que beaucoup d'entreprises ont interrompu leur production. TSMC dit l'avoir interrompu brièvement. Ça inquiète beaucoup d'industriels. Marion Zipfel est la correspondante de BFM Business dans la région Asie.
TSMC compte 12 sites de production à Taïwan et même si toutes les fabs, les usines de fabrication des semi-conducteurs sont situées à plus de 4 heures de Hualien, la zone la plus fortement touchée par le séisme, tous les sites ont connu des perturbations, ont connu des interruptions plus ou moins longues de la production afin d'inspecter les équipements, afin d'évaluer l'impact du séisme sur la production. Selon certains experts, ces perturbations pourraient d'ores et déjà avoir des impacts sur toute la chaîne logistique des semi-conducteurs en Asie. De façon plus général, ce séisme illustre une nouvelle fois la problématique de la concentration de la production des semi-conducteurs à Taïwan. Taïwan vulnérable sur le plan géophysique, vulnérable sur le plan géopolitique. TSMC, qui contrôle à lui seul près de 60% du marché mondial des semi-conducteurs, entend bien rester à Taïwan, mais se développe à l'international avec des usines aux États-Unis, au Japon et une première implantation en Europe à Dresde, avec un début de chantier prévu pour le premier semestre 2024.
Voilà, Marion Zipfel, correspondante de BFM Business dans la région Asie. On parlera de la TSMC dépendance, bien sûr, avec nos experts tout au long de la soirée. En France, je vous disais, il y a donc cette chasse aux milliards qui commence sérieusement à crisper les esprits. Tous les jours, désormais, vous avez soit une piste, soit un ballon d'essai qui est lancé. Et il y a une sacrée rumeur qui a couru ces dernières heures. Rumeur selon lesquelles le gouvernement entendait aller taper dans le livret A et l'épargne des Français pour trouver quelques milliards. Gabriel Attal l'a rapidement démenti, cette rumeur, à l'Assemblée. Écoutez.
C'est dans cette même logique que nous allons travailler avec plusieurs parlementaires de la majorité qui accompagneront le gouvernement dans les prochaines semaines, dans cette même logique de taxation des rentes inframarginales d'énergéticiens ou de profits indus liés à la spéculation dans le cadre de l'inflation. Pas pour aller chercher, comme je peux le lire ici ou là, le livret A ou l'épargne des Français. La vraie différence entre nous et les oppositions dans cet hémicycle, c'est que nous ne nous en prendrons jamais aux Français qui travaillent, aux fruits de leur épargne, aux Français qui ont travaillé toute leur vie. C'est ça la vraie différence entre vous et nous.
Voilà Gabriel Attal cet après-midi à l'Assemblée nationale. Où le gouvernement va-t-il aller chercher les milliards dont il a besoin? Peut-être en taxant les rentes, comme disait le Premier ministre. Par contre, toujours pas question vraiment d'augmenter les impôts. Bruno Le Maire l'a encore redit ce matin dans le journal Les Échos, dans une tribune qu'il a signée. « Je refuse de céder à la facilité coutumière des temps difficiles », écrit notamment le ministre de l'Économie et des Finances. 18h04, alors pendant que justement Gabriel Attal s'agitait dans l'hémicycle, ça s'est aussi agité devant l'Assemblée nationale. Bonsoir Nathan Gocampo. Il y avait environ 600 salariés de SEB qui étaient mobilisés pour répondre à la polémique du moment, cette proposition de loi qui entend lutter contre ce qu'on appelle les polluants éternels, c'est ça Nathan,
hein. Oui, si la loi passe, 3000 d'entre nous seront au chômage. Voilà le message martelé aujourd'hui par les salariés et syndicats présents devant l'Assemblée nationale. Pointez du doigt donc ces PFAS, ces polluants éternels utilisés pour produire des poêles dans l'usine du Rumi, notamment en Haute-Savoie. Des poêles principalement destinées à l'export. Derrière les poêles, nos emplois. L'écologie, oui, nous emploie aussi. C'est ce qu'on pouvait lire sur les pancartes des manifestants. Les syndicats et salariés l'assure, la production est respectueuse de l'environnement.
Tefal a fait un bond en avant au niveau technologique. Et tous les produits qu'il utilise aujourd'hui, ils ont une innocuité totale. Pour la santé, c'est reconnu par des scientifiques.
Je vais très bien, moi, il n'y a pas de souci. Moi, il me reste 10 ans à faire avant ma retraite. Moi, je me vois mal à 52 ans aller pointer au chômage et essayer de trouver du boulot, quoi.
Même son de cloche pour la direction de Tefal et Seb. Stanislas de Gramont, directeur général du groupe, s'appuie sur la science pour défendre sa production.
Vous avez un certain nombre d'autorités internationales qui sont censées d'ailleurs protéger les consommateurs et les citoyens, qui ont émis un point de vue scientifique sur ces sujets-là. Ce point de vue est balayé d'un revers de la main sur des questions d'amalgame. Ah oui, mais comme on ne sait pas, on va mettre tous les PFAS. Ben nous disons non, parce que nous pensons qu'il y a une autre manière de faire la loi, qui fait appel à la science, qui fait appel à la concertation, qui fait appel à la raison et au bon sens. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui.
De nouvelles études européennes sur les PFAS sont attendues dans quelques mois. Le projet de loi sera présenté demain à l'Assemblée nationale et suscite déjà la réserve du gouvernement.
Merci beaucoup Nathan. Nathan Cocampour parlera de ces PFAS, hein, bien sûr, d'ici 20h avec nos experts sur BFM Business. Pendant ce temps, l'Europe, figurez-vous, qui annonce qu'elle va lancer toute une série d'enquêtes contre des acteurs chinois du photovoltaïque, cette fois des géants que Bruxelles soupçonne évidemment d'avoir bénéficié de très très larges subventions susceptibles d'avoir faussé la concurrence, évidemment. Et puis, dans l'actualité des entreprises, CMA-CGM va rejoindre Renault et Volvo comme membres fondateurs de Flexis, entreprise dédiée à la production de véhicules électriques utilitaires légers. Flexis, qui, ça se précise, va bien lancer début 2026 une camionnette électrique dite polyvalente. Mais Luca De Meo, le DG de Renault, en a dit un petit peu plus à Justine Vassogne ce matin. Écoutez.
On présente une initiative ensemble qui tourne autour d'un produit révolutionnaire qui est Flexivan, qui est un nouveau projet qu'on a mis ensemble depuis maintenant deux ans et demi, et qui amènera, je pense, à complètement transformer le segment des véhicules utilitaires, surtout pour les livraisons de last mile, comme on appelle, donc plutôt le côté urbain. Donc on fait une voiture qui est née pour être électrique, avec un skate électrique très modulable, avec une nouvelle architecture électronique, avec la voiture qui est connectée au cloud et un concept de carrosserie aussi qui donnera beaucoup de flexibilité dans la production. Et la voiture sera produite à Sandouville comme on a annoncé vendredi.
Voilà Luca De Meo, le DG de Renault ce matin au siège du groupe à Boulogne-Billancourt. 18h07, on va sur les marchés.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Les marchés, Étienne Brack, bonsoir. Euronext à la Défense pour BFM Business.
Bonsoir.
Comment ça s'est passé ce mercredi, mon cher Étienne ?
Dans le vert, puisqu'après une petite baisse hier, souvenez-vous, de 0,9%, vous avez le CAC 40 qui repart déjà de l'avant, plus 0,3% ce soir à la clôture, 8153 points, grâce notamment à des indicateurs aux États-Unis qui montrent que ça y est, ça ralentit un petit peu, notamment dans l'industrie, et puis notamment l'inflation dans le secteur des services. Donc ça rassure les investisseurs, même si rien n'est gagné en termes de baisse de taux, puisqu'encore aujourd'hui, l'un des membres de la Fed a estimé qu'il n'y aura qu'une baisse, et ça sera en fin d'année. Donc vous voyez, c'est toujours le brouillard sur ces perspectives monétaire, mais ça n'empêche pas le CAC 40 de progresser ce soir grâce notamment à une accalmie sur l'obligataire, un 10 ans américain à 4,38. À noter par contre, et ça c'est un élément marquant de ces dernières séances, l'once d'or qui continue de grimper. Figurez-vous qu'aujourd'hui il est au-delà des 2 300 $ cette once d'or. À noter que le pétrole est toujours sur des plus hauts de 5 mois à $89 le baril de Brent, et donc l'indice parisien qui grappille 0,3% ce soir à la clôture, toujours très proche de ses plus hauts historiques à 8153 points.
Merci beaucoup Étienne, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, on est à la mi-séance. Le Dow Jones quasiment stable, hein, 39 202 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille 0,4%, 16 312 points. Tout ça à la mi-séance bien sûr. 18h09, beaucoup de choses dans le prochain quart d'heure. Cette loi qui est arrivée aujourd'hui à l'Assemblée pour booster l'attractivité de la place de Paris. Et puis TSMC qui dit avoir interrompu brièvement sa production de semi-conducteurs après le séisme à Taïwan. Même brièvement, vous allez voir que ça inquiète pas mal de secteurs industriels quand même. Tout ça dans un instant, à tout de suite.
BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi ? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous J'ai dit qu'il y a un vrai souci, alors... il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 18h13, on est reparti dans Good Evening Business. Je vous le disais, c'est une proposition de loi très attendue qui a commencé à être examinée en commission à l'Assemblée nationale. Proposition de loi pour renforcer encore l'attractivité de la place financière de Paris. On va en parler avec Jean-Charles Simon qui est avec nous. Bonsoir Jean-Charles, bienvenue, délégué général de Paris Europlace, qui promeut justement, c'est l'objet de Paris Europlace, c'est promouvoir l'attractivité.
C'est notre raison d'être.
C'est votre raison d'être. D'ailleurs, vous avez été associé étroitement aux travaux qui ont débouché sur cette proposition de loi. Renforcer l'attractivité de la place financière de Paris. Déjà, si on fait un peu de pédagogie en 30 secondes, ça veut dire quoi, Jean-Charles, concrètement ?
Ça veut dire se donner les armes pour poursuivre la dynamique vraiment favorable, vraiment marquante, qui se passe depuis pas mal d'années, ouais, en faveur du développement de la place financière de Paris. Et c'est très concret. En 5 ans, fin 2017, fin 2022, 20 000 emplois dans Paris, liés aux activités financières. Et ça va très au-delà du seul effet Brexit. Il y a un effet Brexit qui existe, qui est de la relocalisation d'activités de Londres vers l'Union européenne, et dont Paris est le plus grand bénéficiaire. Mais c'est aussi un mouvement plus global où il y a les bonnes conditions pour faire de la finance en France. Et il faut donc faire en sorte que ça se poursuive. D'abord parce qu'il y a une compétition qui est féroce en la matière, en matière d'emploi, en matière de capitaux. Les dernières années, c'est aussi plus 3 milliards de balance des services financiers en plus pour la France. Pour un pays qui a un gros déficit commercial, c'est quand même très appréciable. Et donc tout ça, il y a une bataille pour tout ça qui est très féroce entre les grandes places financières européennes. Et il faut se donner les moyens, il faut se donner les armes de pouvoir continuer à être sur cette bonne dynamique et d'avancer.
Paris, première place financière européenne aujourd'hui, voilà, qui a dépassé Londres en termes de capi depuis un an et demi, c'est ça ?
Alors,
c'est
pour ça, la partie symbole, donc, capitalisation des marchés actions, effectivement. Ouais. Après, sur l'ensemble des caractéristiques des places, Londres reste une place plus grande que Paris. Ouais. Mais dans l'Union européenne, Paris est, je pense, clairement, sans discussion possible, la première place de l'Union européenne.
Et ça, vous dites, c'est pas... Pardon de dire comme ça, par défaut, Jean-Charles, parce que Brexit, parce que difficulté de l'Allemagne aujourd'hui, politique, etc., etc.
Non, c'est aussi... Il y a des facteurs structurels très forts. Les facteurs structurels très forts, c'est qu'on a un bassin de grandes entreprises performantes en Ile-de-France qui est sans équivalent dans les autres métropoles de l'Union européenne. 38 des sièges du CAC 40 et Paris... La France s'est très concentrée sur l'Île-de-France et ça profite beaucoup à la place financière. Pareil pour les grandes écoles, les universités de prestige qui sont à Paris ou autour de Paris. Ça, c'est une force en termes de pool de talents, de compétences à employer qui est assez extraordinaire. Je donne un exemple, une grande banque américaine a fait son centre de R&D mondial à Paris grâce à justement cette qualité des talents, grâce aussi, et donc j'arrive à la dimension plus politique, de politique économique qui permet ça, grâce aussi, par exemple, à un outil comme le crédit impôt recherche. Oui. Sans le crédit impôt recherche, ça n'aurait pas été possible.
Vous avez vu que certaines critiques aussi... vis-à-vis du crédit impôt recherche sont ressorties ces dernières heures. Vous l'avez
oui, compris, mais justement, il faut faire comprendre que tout ça, c'est des emplois très qualifiés, qui sont très volatiles. C'est pour ça que la compétition est féroce. Je le disais au Sénat ce matin, on peut avoir ces emplois qui arrivent, mais qui disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés, parce que c'est très facile de démonter une salle de marché, de transformer transporter un desk d'une grande capitale à une autre. Ouais. Donc il faut se donner les moyens de continuer à être compétitif là-dessus.
Ça veut dire, alors aller plus loin, il y a des propositions d'ailleurs dans cette proposition de loi, on va en parler dans un instant, ça veut dire aussi conserver le gap sur tout ce qu'on appelle stabilité, visibilité, voilà, ne pas revenir
exactement
évidemment sur tout ce qui a été fait quelques années.
Un des grands acquis des dernières années, peut-être depuis une dizaine d'années, c'est en fait, on va de l'avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de marche arrière dans aucun domaine. C'est vrai des grands impôts, c'est vrai de la question du droit du travail, c'est vrai de dispositifs spécifiques comme le régime des impatriés qui compte beaucoup pour le secteur financier. Il n'y a pas eu de marche arrière.
Tout ça s'est fait entre 2015 avec le CICE, 2015, 2017, 2018, allez, mais
Après, il ne se passe pas grand-chose, finalement, Jean-Charles.
Alors, effectivement, après, il y a eu des crises qui ont fait que les choses étaient moins à l'ordre du jour. Donc, nous, on attendait et on salue cette nouvelle proposition de loi parce que, justement, depuis la loi Pacte de 2019, il n'y avait plus eu de nouvelles mesures adoptées pour améliorer notre environnement. Alors que pendant ce temps-là, la compétition est très, très, très vive, très dure. Je citais, le Royaume-Uni en dehors de l'Union européenne, c'est des nouvelles dispositions qui ont été prises depuis le Brexit par le Royaume-Uni qui sont des dispositifs avec lesquels il faut que l'Union européenne ait conscience qu'elle doit se mettre au niveau. Et puis, au sein de l'Union européenne, on a un pays, par exemple, comme l'Italie, qui a des régimes très compétitifs pour attirer des talents des pays étrangers. Oui. Donc, il faut que nous aussi, on soit très bons là-dessus pour rester dans le coup et continuer à créer ces emplois et attirer ces capitaux.
Donc, en quelques minutes, le leitmotiv, faciliter le financement par le marché. Voilà, c'est ça l'idée de base. 2-3 minutes pour donner quelques mesures fortes, faciliter les intros en bourse. C'est trop compliqué aujourd'hui d'aller en bourse.
Disons que, de toute façon, aujourd'hui, le marché n'est pas très favorable à l'introduction en bourse parce que le cycle est le plus défavorable, c'est-à-dire qu'on a des valorisations dans le non-coté qui sont très élevées par rapport à ce qui est acceptable par les marchés. Donc il faut que l'ajustement opère. Après, que veut faire le texte ? Eh bien, notamment se donner les conditions que les introductions en bourse elles se fassent à Paris. Parce qu'il n'y a rien de plus tentant pour un émetteur qui arrive nouvellement en bourse de faire son marché et de regarder quelle est la place qui lui offre les meilleures conditions. Aujourd'hui, par exemple, Amsterdam, pour un jeune entrepreneur de la tech qui vient se coter en bourse, qui est courtisé par tout le monde, il sait qu'à Amsterdam, il pourra obtenir ce qu'on appelle des droits de vote multiples, c'est-à-dire pour lui-même, en tant que fondateur, beaucoup de droits de vote pour une seule action par rapport aux actions ordinaires. Et ça, c'est un atout parce qu'il se dit que, comme ça, il ne va pas être renversé dans les prochaines années.
Même minoritaire.
Il va garder le contrôle du management courant de son entreprise. Et ça, c'est important. La loi, la proposition de loi actuelle le prévoit et on trouve que c'est un très bon point. Oui. Il faut le faire de manière équilibrée, bien sûr, parce qu'il faut protéger tous les investisseurs. Il ne faut pas que les autres investisseurs soient complètement prisonniers d'un déséquilibre de pouvoir qui serait à la fois trop durable et trop excessif. Mais le principe est très bon et ça redonne de l'attractivité à Paris.
J'énumère beaucoup de propositions, mais il y en a 2-3 qui ressortent un petit peu du lot. Le texte veut rendre moins onéreux le licenciement des opérateurs de marché. C'est quoi là l'histoire en quelques mots?
Alors là, l'histoire, c'est que nos conditions de départ, nos barèmes d'indemnité de licenciement, que ce soit les indemnités de licenciement légales, conventionnelles, ou le fameux barème prud'homal qu'on appelle barème Macron sur les indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ça, ce sont aujourd'hui les référents qui servent, c'est notamment les valeurs plafonds, qui servent dans les échanges et dans les discussions, dans les transactions, quand il y a des départs, soit volontaires, soit contraints. Et aujourd'hui, en France, ça aboutit pour les rémunérations exceptionnelles. Oui. Ce n'est pas les autres qui sont concernés. On n'est vraiment même pas dans le 1%, on est dans le 0,1 ou 0,1% des rémunérations, où là, en fait, la France, en appliquant le barème, ça fait des niveaux considérablement plus élevés que dans les autres pays. Vous donnez un exemple, ça va coûter, pour un trader très bien payé, 10 fois plus cher à Paris qu'à Londres, s'il faut se séparer de lui, parce que, par exemple, son activité est complètement déprimée et qu'il n'y a plus de business. Donc, quand il va falloir le faire, ça arrive, eh bien, à ce moment-là, il faut que le coût reste raisonnable parce que là aussi, sinon, les opérateurs vont se dire « Oh là là, j'avais installé des équipes à Paris, je vais les remettre à Londres parce qu'à Paris, ça coûte trop cher. »
Donc, il faut faire quoi? Il faut faire une entorse, une exception au code du travail?
Non, pas du tout. C'est une mesure pour une population bien désignée qu'on appelle les preneurs de risque en disant qu'il est prévu dans le droit européen et notamment par l'encadrement par la BCE et de dire pour ces populations-là notamment on ne va pas tenir compte de la partie variable quand on va regarder le package de rémunération. Et puis ça c'est pas encore dans la proposition de loi mais on espère que ça le sera, on va aussi considérer qu'il y a une sorte de plafond en valeur absolue. Aujourd'hui c'est des valeurs en mois en fonction de l'ancienneté de la personne, donc par exemple 12, 14, 16 mois en fonction de votre ancienneté dans le groupe. On dit qu'il faut un deuxième plafond en valeur absolue parce qu'en fait, il a été pensé pour les 99% de rémunération, pas pour les rémunérations les plus exceptionnelles.
Il nous reste 2 minutes. Il y a beaucoup de propositions. Je vois notamment rendre une place financière plus attractive, c'est aussi favoriser la tenue à distance des assemblées générales d'actionnaires. C'est des petites choses aussi comme ça.
Oui, alors il y a des petites choses comme ça qui sont vraiment importantes. Par exemple, pouvoir faire un conseil d'administration aujourd'hui avec des administrateurs quand vous êtes sur les comptes, l'adoption des comptes, aujourd'hui, il faut que les gens, pour être comptés comme présents, soient physiquement présents. Donc là, maintenant, on pourra...
C'est les fameux quorum,
on pourra considérer que la visio, qui est devenue une pratique un peu universelle de tout le monde permettent de vous considérer comme présent. Vous faites le boulot, vous êtes là à la réunion, et donc on vous considérera comme présent demain grâce à à ce toilettage de la loi, à cette modernisation qui est utile.
30 secondes, Jean-Charles, l'impression qu'il y a toujours un gros sujet en France, c'est d'arriver à flécher l'épargne des Français vers la bourse. Ça, on a traversé mille et une crises, beaucoup ne sont pas revenus,
et
comme on dit.
Et ça fait défaut. Ouais. Nous plaidons pour qu'il y ait des choses, notamment sur le PEA et le PEA-PME, qui soient des vrais assouplissements. D'abord pour le PEA-PME, qui est plus de PME éligibles, plus d'entreprises éligibles, donc en assouplissant les critères. Et puis qu'il y ait un geste, ça existe par exemple au Royaume-Uni, pour inciter les gens à aller dans un produit action pure. C'est aussi une proposition qui pourrait se retrouver dans ce que Bruno Le Maire a évoqué comme un produit pan-européen, qui est aussi une belle idée.
C'est un vieux combat, ça.
Oui, mais après tout, regardez, dans le livret A, vous avez zéro prélèvement, sous plafond, bien sûr, hein, parce que là, il s'agit de faire de l'épargne populaire en action, de manière très massive, auprès de beaucoup de Français, pour les habituer à avoir des actions. Il faut qu'ils regardent BFM Business, et il faut qu'ils soient habitués pour avoir la compréhension des mécanismes financiers. Donc là, on ne parle pas d'un produit pour gens riches, on parle d'un produit pour tout le monde, avec un plafond donc relativement bas, type livret A, mais qui serait un produit dans lequel il y aurait zéro taxation et même pas les prélèvements sociaux qui aujourd'hui pèsent lourd pour quelqu'un qui n'est pas imposable, parce qu'il se dit finalement, dans le livret A, j'ai rien du tout, alors que si je vais sur un PEA, j'aurai les 17,2% de prélèvements sociaux. Qu'on peut vraiment l'encourager et faire une grande mesure d'éducation financière populaire.
Si une vraie loi, si une loi pouvait résoudre tous vos problèmes d'attractivité en France, ça serait fabuleux, Jean-Charles. Voilà, c'est pas le cas. Celle-là, en tout cas, va tenter d'améliorer les choses.
C'est déjà un très bon point.
Au Sénat, donc à l'Assemblée nationale le 9 avril, et puis elle arrive au Sénat, cette proposition de loi, début mai. Voilà pour cette proposition de loi pour accroître l'attractivité de la place financière de Paris. Merci beaucoup, Jean-Charles.
Merci à vous.
De passer, Jean-Charles Simon, le délégué général de Paris Europlace, avec nous ce soir sur BFM Business. Merci, Jean-Charles, à très vite. 18h24. La TSMC dépendance, on en parle dans un instant sur BFM Business. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat, interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h25, je vous disais, on voulait reparler un petit peu de ce qui s'est passé à Taïwan. Séisme de magnitude supérieure à 7 la nuit dernière. Dernier bilan fait état au moins de 9 personnes tuées, de plus de 900 blessés. Et je le disais, il y a beaucoup d'entreprises, dont TSMC, leader mondial des semi-conducteurs, qui a annoncé avoir interrompu brièvement ses activités. Brièvement, c'est un terme qui peut vouloir dire tout et son contraire. Jérôme Valut est avec nous pour en parler. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, enseignant à Sciences Po, associé au cabinet Cassiopée. On s'est dit brièvement, ça peut être quelques minutes, mais on s'est posé la question s'il s'arrête des heures, voire des jours. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde, Jérôme?
Alors, c'est le principal. Ils ont effectivement 37% de parts de marché. Les autres, c'est les Chinois.
Ouais.
C'est pas les Samsung, c'est pas les Intel qui prendront la place. Donc, le marché s'effondre. Mais les deux risques, c'est effectivement un séisme encore plus fort. Il faut savoir quand même qu'il y a eu un séisme en 2022. Un séisme en 2016 qui est donc autour de 6-5 sur Richter et qu'ils ont arrêté 3 heures. Donc 7-2, c'est beaucoup, c'est plus, mais ils sont sur la côte ouest de Taïwan, la faille est sur la côte est et le séisme a lieu sur la côte est. Donc on le sent moins. Et toutes les usines, comme celle par exemple de Kroll à côté de Grenoble pour
ASML.
Microelectronics.
ST Microelectronics.
Voilà, c'est ça. Voilà. Oui. sont fabriqués sur des pilotis qui s'ancrent dans le sol. Donc tout ça est fait pour ne pas trembler en cas de séisme.
Pardon,
ils ont arrêté, mais
j'évoquais un scénario qui pourrait se poser un jour, c'est l'invasion de Taïwan par la Chine.
Évidemment,
tout simplement.
Oui,
mais alors est-ce que tous ces scénarios entre ces interruptions et l'invasion potentielle de Taïwan par la Chine, est-ce qu'on ne s'interroge pas assez suffisamment sur notre TSMC dépendance quand même?
Mais totalement. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Quand l'Amérique dit on va regarder plutôt du côté de l'Asie, c'est qu'un missile sur la ville où sont les usines de TSMC et le monde électronique s'éteint. Enfin, s'arrête.
Oui.
Comme d'ailleurs, à un moment, il y avait un cargo qui était coincé dans le canal de Suez. 10 jours de microprocesseurs bloqués, ça ralentit totalement le marché.
Et dans cette configuration, on voit les Américains qui accélèrent, Intel qui accélère, avec la bénédiction de l'administration américaine et l'Europe qui continue à jouer l'idiote du village, quelque part.
Non, on essaye, mais enfin, on n'a pas. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que fabriquer une puce, c'est plein de composants. C'est d'abord des gens qui la conçoivent, c'est pas les Chinois, Chinois et c'est pas les Taïwanais. Ça, c'est les Américains, essentiellement les Américains, et c'est Nvidia dont on a parlé la dernière fois, c'est Google, c'est Apple, ils conçoivent leurs puces. Après, il faut les fabriquer, mais pour les fabriquer, il faut du matériel. Et là, le leader mondial, il est aux Pays-Bas. Donc en fait tout ça est un
ASML, donc voilà.
Voilà. Et donc on a finalement c'est un imbroglio, tout le monde a besoin de tout le monde et donc c'est pas en faisant tomber un que on arrivera à faire tomber la totalité.
Donc on a raison de pas s'inquiéter plus que ça.
Si il faut s'inquiéter bien sûr, il faut s'inquiéter.
Je pose la question, vous avez vu ASML, le gouvernement néerlandais qui a dû signer un chèque de 2,5 milliards, 3 milliards à ASML.
Oui.
Pour ne pas que tout simplement le groupe aille s'implanter ailleurs ou délocalise massivement.
Absolument. Mais on est bien dans un je te tiens par bichette, hein, oui. Tous. Effectivement, entre l'Europe qui a pas grand chose, mais quand même quelques équipementiers très puissants, la Chine qui a elle tous les matériaux qui permettent de fabriquer les puces, en particulier le silicium, les États-Unis qui ont la conception, oui. et Nvidia. Est sans doute un des meilleurs concepteurs de puces sur le marché aujourd'hui, ce qui explique ça. D'ailleurs, on a regardé le cours d'Nvidia, il a baissé, mais pas tant que ça.
Oui.
Voilà, donc
oui.
Je crois que tout le monde s'inquiète, et effectivement s'inquiète d'un monopole chinois ou d'un monopole asiatique sur le sujet, mais effectivement, c'est sensible.
Est-ce que pour l'Europe aussi, il n'y a pas l'inquiétude de se dire, ben voilà, peut-être qu'on sera toujours très dépendant de Taïwan, de TSMC, de la Chine, mais nous, on va essayer de réagir, mais on ne sera pas... présent sur la qualité, sur la puce haut de gamme,
mais
finalement.
Absolument, c'est un sujet. Mais parce que pourquoi la Chine ne produit pas des puces haut de gamme? C'est parce qu'ils ne savent pas concevoir les puces haut de gamme. Et qu'aujourd'hui, les puces chinoises ne sont pas du tout à la hauteur du marché. Donc, ouais. Pour le moment, la conception, elle est bien aux États-Unis et elle reste aux États-Unis.
Bon. Donc, vous invitez quand même à accélérer en Europe, on est d'accord.
Ah ben oui, mais enfin, est-ce qu'on a.
Et à partir de quoi? À partir de qui? D'ASML, d'autres acteurs?
Oui, enfin. On n'a pas les acteurs qui permettent finalement de se poser la question. Ouais. ST Microelectronics, à la rigueur, mais ils sont tout petits. C'est une goutte d'eau dans la mer. Donc, on n'a pas vraiment ces acteurs-là.
Malgré les pérégrinations de Thierry Breton ces années et de tous les responsables européens.
Oui, mais bon, après, il peut y avoir un grand plan européen pour relancer ce sujet, mais pour le moment, c'est, à mon avis, c'est au niveau de l'Europe.
Ça aurait fait un beau sujet de campagne électorale pour les Européennes.
Bah, absolument.
Il reste quelques semaines, allez, on peut encore y croire.
On peut encore.
Merci beaucoup, Jérôme. Merci de passer nous voir. Quelques minutes. Jérôme Valut, enseignant à Sciences Po, associé du cabinet Cassiopée. Merci beaucoup, Jérôme, d'être passé nous voir.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h34, on est reparti sur BFM Business. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous.
Audrey Tcherkov avec nous, bien évidemment. Et puis nos experts sont là. Emmanuel Lechypre est là, évidemment.
Bonsoir.
Bonsoir Emmanuel. Bruno Coquet est avec nous. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Bienvenue. Docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Puis Nathalie Janson qui est avec nous. Nathalie, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à Neoma Business School. Alors, cette chasse aux milliards qui commence légèrement, Audrey, à crisper les esprits parce que tous les jours, il y a des pistes, des ballons d'essai qui tournent. Et il y a même eu une sacrée rumeur ces dernières heures.
Rumeur, en effet, selon lesquelles le gouvernement entendait taxer les livrets A et l'assurance vie pour faire rentrer des milliards, démenti formellement de la part de Gabriel Attal tout à l'heure à l'Assemblée. On écoute et on en débat tout de suite.
C'est dans cette même logique que nous allons travailler avec plusieurs parlementaires de la majorité qui accompagneront le gouvernement dans les prochaines semaines, dans cette même logique de taxation des rentes inframarginales d'énergéticiens ou de profits indus liés à la spéculation dans le cadre de l'inflation. Pas pour aller chercher, comme je peux le lire ici ou là, le livret A ou l'épargne des Français. La vraie différence entre nous et les oppositions dans cet hémicycle, c'est que nous ne nous en prendrons jamais aux Français qui travaillent, aux fruits de leur épargne, aux Français qui ont travaillé toute leur vie. C'est ça la vraie différence entre vous et nous.
Eh bien, ça c'est dit, au moins c'est clair. Bon, après, sur le livret A, on a un problème de riches, parce qu'on a un trop plein d'argent et on ne sait pas quoi en faire. On est quand même à une cagnotte de 420 milliards d'euros, Manu.
Oui, c'est étonnant parce que manifestement, on veut s'en prendre aux Français qui gagnent beaucoup d'argent. Et en fait, on veut par contre préserver ce qui est sain, les Français qui ont travaillé toute leur vie mais qui finalement n'ont rien gagné, quoi. Donc, bon, moi, ce que je vois au fil des jours, c'est que on ferme toutes les portes de ce qui n'augmentera pas, de tous les impôts qu'on n'augmentera pas. On n'a toujours pas plus de d'informations sur finalement qui va devoir mettre la main à la poche.
Bah si, non mais on sait qu'on va taxer plus les, enfin, on vise les chômeurs, on vise les personnes âgées, on vise les personnes malades.
Les rentes.
les rentes.
Les personnes âgées, pour le moment, franchement, ouais, on les vise pas énormément.
Non, mais c'est en cours.
Bah, c'est en cours. Je sais pas ce qu'il y a dans les tuyaux pour les personnes âgées. C'est sûr. Si on décidait, par exemple, de basculer de la plus de CSG sur les seniors, pourquoi pas. Mais le livret A, de toute façon, c'est qu'est-ce que vous voulez. C'est la pire des. C'est. Je sais pas quoi vous dire.
Le livret A, c'est de 420 milliards effectivement.
C'est Nathalie la spécialiste.
L'encours de l'assurance vie, je crois que c'est de mémoire, c'est 1700 milliards d'euros.
Oui, mais vous n'êtes pas du tout sur la même nature de choses. Hein.
Rappelons quand même que ça, hein, c'était
l'assurance vie, c'est une enveloppe et que vous mettez ce que vous voulez dedans. Le livret A, c'est un petit compte rémunéré, quoi.
Oui, alors sauf que le livret A, Nathalie, c'est censé aider le financement des PME, la transition écologique, l'économie sociale et solidaire.
Le logement.
Le livret A, c'est surtout le logement.
Et peut-être bientôt nucléaire, ça se trouve.
Oui, mais en fait, bon, ça fait partie de ces produits réglementés dont la France a le secret, qui, en fait, qu'on aurait quand même pu faire, enfin, on aurait pu le défaire depuis quand même. Mais on l'a pas défait. Et comme les Français sont pas très élaborés dans leur façon de gérer leurs finances, eh bien voilà, l'argent est là. Mais effectivement, comme l'a dit Emmanuel,
Le Français préfère de la très sécurité. Loin le zéro risque à la rémunération. Voilà.
Oui,
ce qui peut s'entendre. Hein,
oui, non, mais après, attendez, la raison pour laquelle les Français choisissent le livret A, c'est par rapport à son taux plus que par rapport à ce
Pour le moment,
le logement social, mais c'est pas.
Oui, mais bon, je veux dire, si vraiment vous voulez du rendement, c'est quand même pas avec le livret A que vous allez en avoir. Mais effectivement, comme c'est un taux garanti et que finalement, compte tenu de l'inflation qui est revenue à des niveaux relativement contenus, eh bien, il redevient attractif, d'autant plus qu'il n'est pas fiscalisé. Voilà.
Bruno Coquet, comment est-ce que vous regardez cette séquence de cet après-midi? Je veux que Gabriel Attal se soit dépêché d'aller à l'Assemblée démentir une rumeur, une fake news sortie de nulle part. Ça dit quand même long sur l'état d'esprit.
C'est une moitié fake news. C'est quand même lui qui a annoncé qu'il allait favoriser les gens qui travaillent par rapport aux gens qui ne travaillent pas. Donc du coup, les gens qui ne travaillent pas, c'est une grande masse de gens. On peut entendre. Donc il disait ça dans le contexte assurance chômage, mais ça peut s'entendre de manière élargie. Donc les gens qui ne travaillent pas, c'est les rentiers aujourd'hui, c'est les rentiers, c'est en entendant par des gens qui touchent des intérêts de leur livret A, d'assurance vie, et puis d'autres, je ne sais pas. Ça peut être les retraités, ça peut être tout le monde en fait.
Sur la partie rente, Bruno, là on a une commission et un groupe qui va travailler justement, qui réunit l'ensemble de la majorité sur le sujet pour savoir comment taxer les rentes.
Alors après, il y a les rentes, il y a les stocks et il y a les flux. Oui. Donc la rente, c'est le flux, c'est pas le stock. Donc du coup, si on touche aux produits de l'épargne, comme on dit, ça va être sur des dividendes, ça va être sur des intérêts, mais normalement, c'est pas pour prendre un bout du stock qui est certes de la surépargne. Par rapport au Covid. Pourquoi les gens ont épargné parce que d'un seul coup, parce qu'ils avaient trop d'argent, mais bon, même y compris par les faibles revenus, le livret d'épargne populaire, les gens ont épargné quand même. Donc du coup, il y a cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on a dépensé beaucoup pendant cette période, et puis en même temps, on leur explique qu'on diminue leur protection sociale. Donc les gens, ils veulent une épargne liquide, surtout si elle est bien rémunérée, de manière à pouvoir éventuellement compléter cette protection sociale qui diminue, que ce soit le chômage, la retraite ou le reste.
Mais c'est vrai que c'est quand même un montant historique. Hein. Les sommes placées ont augmenté de 40% depuis début 2020.
Toute l'épargne des Français atteint des niveaux historiques.
Non, c'est le taux d'épargne surtout qui est à 18% aujourd'hui.
Ça va avec.
Oui, mais globalement, ça veut bien dire que... c'est ça qui est vraiment très atypique de la France, c'est-à-dire que dans les pays comme les États-Unis par exemple, il y a eu une forte accumulation d'épargne pendant le Covid, et en fait cette accumulation, elle a été dilapidée, et le taux d'épargne des Américains est à nouveau extrêmement bas. Nous, pas du tout.
Non.
Donc nous, il y a quand même énormément. On peut se dire que il y a quand même énormément de l'argent qui est du déficit et de la dette publique aujourd'hui, qui est de l'argent qu'on retrouve sur les livrets A et dans l'épargne des Français. Et c'est là où vous avez ce cercle vicieux qui est quand même celui de Français qui épargnent parce qu'ils pressentent que, compte tenu du niveau de la dette et des déficits, il va peut-être y avoir des hausses d'impôts. Alors je sais que ce qu'on appelle l'équivalence ricardienne, hein, ça a, honnêtement, ça n'a jamais été
très prouvé,
très fondamentalement démontré. Donc voilà, mais je pense qu'il y a quand même... C'est-à-dire que plus vous avez un État impécunieux, plus vous avez en face des citoyens qui épargnent, parce qu'ils se disent...
Non, mais c'est aussi une crise de confiance.
Regardez les chiffres sur les
montants. On est passé de la pandémie à la crise de l'énergie.
Les Français ont accumulé pour leur épargne. Vous avez quand même la moitié des Français qui a aujourd'hui mis de côté plus de presque 70 000 euros pour sa retraite. Donc c'est lié aussi à ça. Et puis moi, ce qui me sidère quand même chez ce gouvernement, c'est quand même l'énergie dépensée pour aller chercher plein de petites centaines de millions, voire quelques milliards. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup d'efforts pour un rendement quand même extrêmement faible.
Ah bah c'est sûr qu'on est loin des 30 milliards qu'on est censé chercher sur les deux prochaines années.
C'est moins de tumultes sociaux à l'arrivée aussi.
Enfin, le point, c'est qu'ils ont essayé de taxer une rente, c'est les rentes inframarginales sur l'énergie. Et c'est quand même ça qui fait le trou budgétaire l'année dernière.
Et c'était pas fini.
Non, mais le point, c'est que l'année dernière, on avait prévu 12 milliards. On en a touché 3. Donc, du coup, déjà, essayons de faire, quand on veut faire une taxe.
Oui, mais en même temps, pourquoi Bruno, parce que finalement, on est parti sur un grand projet et comme d'habitude, on a accouché d'une souris parce qu'il y a eu des exemptions, il y a eu tout un tas de trucs sur mesure qui ont fait que plein d'entreprises sont passées dans le trou du filet.
De toute façon, oui, pour rebondir, il est certain que la comparaison, en plus, avec les États-Unis, au moins quand ils ont épargné, ils l'ont remis dans le circuit financier, ce qui n'est pas notre cas, parce que de toute façon, le livret A, il finance le logement social, mais même pas vraiment, alors qu'en fait, les entreprises françaises ont besoin de financement, donc on est quand même dans un système qui est quand même incroyable, où on a du financement qui n'arrive pas à aller là où il faudrait qu'il aille, parce que tout simplement, les préférences des gens ne sont pas en raccord avec ce qu'il faudrait financer, c'est-à-dire un peu de risqué. En fait, c'est tout le problème. Et en même temps, comme Emmanuel l'a dit, les Français mettent de côté pour leur retraite, alors qu'on ne veut pas non plus introduire la capitalisation. Donc on marche vraiment sur la tête, parce que du coup, on serait prêt à avoir
mais juste, les ménages français sont très peu à citer des critères non financiers dans le choix de leur placement. Ce qui les intéresse, c'est le rendement avant tout.
Comme tous les épargnants du monde. Mais en fait, il ne va pas irriguer le risque sur le marché, en fait, l'épargne française. Elle reste sur la dette française.
Bon, alors où va-t-on aller chercher ces milliards? Peut-être en taxant les rentes, a priori pas en allant ponctionner le livret et les produits d'épargne.
Enfin, là encore, en taxant les rentes,
on va définir ce que c'est.
On verra.
Il y a plein d'obstacles. Et puis, on a aussi envie de leur dire, mais attendez, là, vous allez arriver avec votre... Admettons qu'on arrive à définir ce que c'est ce projet, qu'on arrive à définir ce que c'est qu'une rente, parce que alors en économie on arrive à peu près à le définir. Bon, les
sur-profits,
ça
va faire comme
pour les
super-profits. Avant qu'on arrive,
on va pas se lancer là-dedans.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on va arriver à la fin de ce débat à un moment où la question ne sera absolument plus pertinente, puisqu'en fait, ces surprofits ou ces rentes, je veux dire, elles résultent d'une conjoncture absolument improbable et unique qui n'a aucune chance de se reproduire.
Il y a
été d'un côté un effondrement des profits au moment du Covid et une explosion des profits au moment de la guerre en Ukraine et de la vague d'inflation.
On n'a pas bénéficié.
Et donc le problème, c'est que vous n'aurez jamais des profits qui vont se retrouver 30 à 35% supérieurs à leur niveau des années précédentes. Sauf dans un cas, et c'est là où c'est très préoccupant, c'est que quand vous avez, par exemple, des entreprises qui investissent massivement, qui vont se retrouver, par exemple, avec des pertes pendant 3, 4, 5 ans, et qui d'un seul coup vont trouver, finalement, vont rentrer dans leurs frais, vont engranger des profits, etc. Elles vont risquer de se retrouver avec des profits qui dépassent, si vous voulez, ces seuils-là. Et donc, vous allez pénaliser des entreprises en croissance, alors que l'entreprise qui fait une grosse marge, confort, bien planquée dans son coin, elle paiera des profits tout à fait...
Sauf qu'en réalité, la taxation sur les grands fleurons français, elle passe à côté du sujet principal, sur le fait que 80% des profits générés par les boîtes du CAC 40 françaises est fait à l'étranger.
Ouais, mais ça, vous pouvez pas
changer.
Va à l'étranger. Non, mais bien sûr, non, mais on aura beau augmenter les impôts...
Justement, les impôts. On aura beau, Bruno Le Maire l'a encore dit ce matin, il persiste signe dans une tribune que vous voyez peut-être si vous nous regardez à la télévision, genre Les Échos. Pourquoi nous n'augmenterons pas les impôts? Drôle de justice dans un pays où 10% des contribuables payent les trois quarts de l'impôt sur le revenu. Où la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 2011 est toujours en place 13 ans plus tard, où le taux marginal de prélèvement atteint 60%. Je refuse de céder à la facilité coutumière des temps difficiles, nous n'augmenterons pas les impôts. Voilà. Bruno Le Maire qui persiste et signe finalement.
Avec un taux de prélèvement en effet quasiment historique en France, une qualité de service public en face qui s'effondre chaque jour. On a le travail et le capital qui sont beaucoup trop taxés. Mais alors, où peut-on taxer ? Peut-être sur la consommation, mais en tout cas, ce débat sur les impôts efface complètement le débat de fond qu'on devrait tous avoir, qui est le débat sur les réformes structurelles.
Complètement. Oui, oui, je pense que c'est surtout ça qui est dommageable dans les derniers jours qui viennent de se dérouler. On voit bien que Bruno Le Maire, il tient à honorer la promesse présidentielle, donc voilà, il est dans le même sillon. En même temps, il est vrai que ça donne un gage, enfin, il veut aussi entretenir sans doute un des mérites de ce qu'a fait le président Macron depuis qu'il est en place, c'est effectivement d'avoir quand même réussi à stabiliser la fiscalité dans une certaine mesure.
Ouais.
Et en effet, comme c'est quand même un atout, cette stabilité de la fiscalité, notamment pour attirer les investisseurs étrangers, il ne veut pas renoncer. Mais on regrette quand même qu'à cette occasion, puisque la stabilité, si on veut pas effectivement toucher aux impôts, et on regrette qu'effectivement il n'y ait pas eu une plus grande revue de ce que devrait être l'action de l'État pour effectivement regarder les dépenses de très près et sélectionner celles qui sont à privilégier, si on effectivement ne veut pas toucher à ces fameux impôts.
Il dit non aux impôts, hausse d'impôts. Je crois que dans son bouquin, il y a quand même une piste qui l'écarte pas fondamentalement, c'est celle de la TVA sociale, il me semble. Hein, je crois, la fameuse page 68 du bouquin.
Ouais,
dans la voix française.
Alors en fait, oui, alors il est sur. Il parle plutôt d'un transfert, lui. Il dit pas augmentation. Mais moi, ce qui me frappe, c'est quand même le peu de projection, finalement, dans la réflexion.
Et puis le peu d'idées.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est surtout que ce sont des réflexions du 20e siècle. Parce que quand vous allez plus loin et que vous regardez, finalement, les transitions qu'on est en train de vivre, il y en a une qu'on oublie complètement. Alors Dieu sait si les autres sont pas forcément. Déjà, alors la transition digitale, elle est en route, elle est inarrêtable, etc. La transition écologique, c'est un peu plus compliqué. Et pour réussir ces deux transitions, on en oublie une troisième sur laquelle on est au niveau de réflexion zéro, c'est la transition fiscale. C'est-à-dire qu'il y a bien un moment où, face d'un côté à des phénomènes quasi paranormaux en matière de fiscalité, c'est-à-dire par exemple l'effondrement des recettes au quatrième trimestre de 2023 qui plombe finalement les déficits, il y a quand même des explications à aller chercher. Et moi, ce que je vois, c'est qu'on a finalement des vieux impôts qui rapportent de moins en moins et qu'il va quand même falloir s'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'une fiscalité moderne, c'est quoi des basses taxables modernes. Quand vous voyez qu'on a des sources de revenus qui s'effritent, qui s'étiolent. Quand on va passer à la voiture électrique, plus on va passer à la voiture électrique, plus les recettes de taxes sur les carburants vont s'étioler. Comment on taxe
Comment on taxe l'immatériel, c'est quoi ?
Oui, mais comment on taxe l'immatériel ? Franchement, la réflexion, elle mérite encore d'être aboutie. Deux, la fiscalité écologique, aujourd'hui, on est quand même proche de zéro. Il n'y a rien. La fiscalité, et voilà. Et donc, il y a quand même des questions à se poser sur la taxation de l'intelligence, si les robots remplacent... Enfin, je veux dire, il y a quand même des réflexions à conduire sur des nouvelles sources de recettes fiscales. Et là, franchement, on est toujours sur les vieux
Bruno
trucs
Coquet, TVA, CSG. Est-ce que vous me dites, comme Emmanuel Le Chip, qu'on est encore au Moyen-Âge sur les sujets de fiscalité ?
Ah oui, moi je pense que ça, c'est qu'effectivement c'est le 20e siècle, quoi. Donc alors après, il y a des vieux impôts qui sont super, la capitation,
oui,
l'impôt sur
le sel. Je ne prends pas le bébé avec l'eau du bain.
Voilà, donc du coup
c'est l'inventivité française.
Voilà, donc mais bon, de temps en temps, il y a des bons impôts. Moi, dans le papier de Bruno Le Maire, c'est un grand romancier, hein, donc 95% de fiction et 5% de faits.
Donc c'est pas mal,
donc là, moi, il y a un truc, je suis d'accord, c'est sa conclusion. Il dit il y a un problème de niveau et d'efficacité de la dépense publique.
Et alors, comme paraphraser notre président, il faudrait qu'il en parle au ministre de l'économie.
On aurait aimé une stratégie, et on n'en a toujours pas. On a plein de plans dans tous les sens. Emmanuel en a cité quelques-uns. On a plein de petites stratégies, mais au fond, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire. Donc on nous dit, il y a les dépenses sociales, mais on a oublié, il y a aussi des recettes sociales en face des dépenses sociales. L'essentiel du déficit ne vient pas de là. L'essentiel du déficit vient de, comme le dit le ministre des Finances, la faible efficacité
efficacité de la dépense publique. Voilà. Et pour ça, ils ne nous proposent rien.
Voilà,
indépendamment des nouvelles sur l'impôt.
La fiscalité du XXe siècle, voilà, qui doit se réinventer. Voilà.
Ouais, rhabillé pour l'hiver.
Exactement.
Alors, un des sujets qui a fait beaucoup couler d'encre et qui a fait beaucoup parler aujourd'hui, on a vu les salariés et les membres de la direction de SEB manifester devant l'Assemblée nationale contre une proposition de loi portée par un député écologiste qui vise à interdire dans certains secteurs l'utilisation des fameux produits contenant ce qu'on appelle les polluants éternels.
Oui, alors, ce problème, c'est que ça concerne pas mal de secteurs, tout ça. Les cosmétiques, les textiles d'habillement, mais aussi, entre autres, les produits d'électroménager comme ceux que fabrique SEB, notamment les fameuses poêles Tefal. Et le DG de SEB était dans la Madif et il a dit clairement faire passer cette loi. Alors lui, il y va fort, il dit que ça pourrait jouer sur l'emploi, tout simplement. Écoutez Stanislas de Gramont aujourd'hui à Paris.
Vous avez un certain nombre d'autorités internationales qui sont censées d'ailleurs protéger les consommateurs et les citoyens, qui ont émis un point de vue scientifique sur ces sujets-là. Ce point de vue est balayé d'un revers de la main sur des questions d'amalgame. Ah oui, mais comme on ne sait pas, on va mettre tous les PFAS. Ben nous disons non, parce que nous pensons qu'il y a une autre manière de faire la loi qui fait appel à la science, qui fait appel à la concertation, qui fait appel à la raison et au bon sens. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Voilà.
Les PFAS, c'est l'autre nom de ces polluants éternels.
Oui,
voilà,
absolument.
Le collimateur.
Mais en fait, on est un peu à la croisée des problématiques écologiques, sanitaires et puis industrielles, mais ça me fait un peu penser au cas de l'amiante, parce qu'on a reconnu justement ces méfaits très tardivement, en tout cas en France, et on connaît les dégâts que ça a fait. Parce qu'aujourd'hui, ces PFAS, ces polluants éternels sont partout, Nathalie Janson.
Oui, effectivement, ils sont partout. Bon, moi, je n'ai pas la, je peux pas prétendre savoir dans le débat si qui a raison, qui a tort au niveau des méfaits. Bon, c'est sûr que on est toujours dans cette situation. C'est une situation délicate. Forcément, lui, l'industriel va mettre en avant que c'est l'emploi qui va être qui est le premier menacé, puisqu'il va pas convertir ses poêles du jour au lendemain en autre chose. Maintenant, est-ce qu'effectivement il faut,
et en même temps, pourquoi pas? Parce que enfin, il est pas nouveau ce sujet.
Non, il est pas nouveau, mais il a été débattu plusieurs fois. Effectivement, il est débattu puisque à chaque fois, il y a eu des allers-retours. Ouais. C'est très cancérigène. Finalement, pas tant que ça. Donc,
voilà, parce qu'en fait, il faut préciser pour nos auditeurs qu'il suffit de changer une molécule pour que finalement, quand c'est interdit, ça soit
en fait, c'est
permis à nouveau.
Pas interdit. Exactement. Voilà. Donc, bon, voilà, c'est... Mais, en effet, est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce qu'il faudrait l'interdire définitivement du jour au lendemain? Est-ce que les autres... Enfin, est-ce que les propositions alternatives pour avoir des produits similaires ne génère pas d'autres effets aussi néfastes? Voilà, je n'ai pas, effectivement, j'ai pas
Bruno
la capacité scientifique là-dessus.
Ben moi, déjà, l'étiquetage, c'est quand j'achète une bouteille d'acide chlorhydrique, ça ne m'arrive pas tous les jours, mais c'est quand même écrit dessus que c'est dangereux. Donc, bon, là, quand on achète une poêle, ce n'est pas écrit. Donc,
si
c'est dangereux, il faut déjà l'écrire. Donc, en gros. Mais l'autre chose, moi, ce qui me frappe, c'est que le monsieur Seb, il n'a pas tout compris au film. C'est-à-dire, on dit, la loi, elle dit qu'elle veut interdire la production, l'utilisation, mais aussi l'importation et la vente. Et donc, du coup, on lui supprime ses concurrents du jour au lendemain. Il pourrait faire un effort. Et il pourrait se dire, voilà, je supprime la molécule qui va bien ou qui va mal. Et donc, du coup, je rentre dans les clous de la norme. Mais bon, l'État va m'aider. Dans ces cas-là, on demande toujours à l'État.
Ah oui, donc vous voyez ça plutôt comme une opportunité, finalement, pour les industriels.
C'est une opportunité. On lui supprime tous ses concurrents du jour au lendemain. Et donc, du coup, il va préserver l'emploi. Il va même le développer. C'est ça qu'il devrait dire.
Emmanuel Le Chypre, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui cuisinez beaucoup?
Oui.
Ouais, alors pour le coup, non, moi ce que ça m'inspire, c'est
qu'il se pose pas 10 000 questions quand il achète une poêle Tefal, apparemment.
Bah moi, j'utilise aussi tous les jours pour les crèmes de mes enfants.
Alors Dieu sait s'il y en a une qui achète des produits
toxiques.
Ah, surtout pas. C'est bien Nathalie. Non mais ce que je veux dire, c'est moi ce qui me choque, c'est que là encore, on est dans une situation très française, dans laquelle on est sur une espèce de confrontation assez stérile, finalement. Un peu comme le glyphosate, c'est-à-dire que vous pouvez confronter les points de vue pendant des jours, des mois, des semaines. Moi, j'ai écouté des émissions entières avec des spécialistes, des journalistes spécialistes du glyphosate. Et quand vous ressortez de là, vous savez toujours pas. Et en attendant, on n'avance pas. Donc
il faut prendre une décision.
Non, voilà, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis frappé, de la part de beaucoup d'acteurs, finalement, qui, individuellement, n'ont aucun sens de l'intérêt général. C'est-à-dire que ce député écologiste, qui ne se préoccupe que de la problématique de savoir si ses poils sont toxiques ou pas. Et
bah, enfin, il a quand même parcouru la France pendant 7 mois. Il a fait des centaines de tests.
C'est que quand vous êtes un homme politique, vous devez vous préoccuper de tous les effets collatéraux des mesures que vous proposez. Oui, il y a un effet économique. Donc, aménageons, prenons la décision, encore une fois, de bouger. Honnêtement, Seb, c'est une des entreprises les plus innovantes de France.
C'est vrai.
C'est-à-dire, c'est une entreprise qui a une capacité à inventer, à créer, et notamment dans son secteur de l'électroménager, où ils s'en sont toujours sortis en réussissant à vendre des produits innovants plutôt haut de gamme. Donc moi, j'ai une totale confiance dans Seb pour, effectivement, faire s'accommoder de
pour
ça.
Pour le moment, on ne peut pas dire qu'ils innovent sur ce sujet-là.
Oui, mais en fait, ils doivent être, vous ne croyez pas qu'ils ne sont pas en train de réfléchir chez Seb, dans les laboratoires, sur ce qu'ils peuvent faire pour remplacer ça.
Ah bah,
le directeur, lui, il est dans son rôle. Mais franchement, effectivement...
Oui, mais il aurait mieux fait
de prime abord, la menace sur l'emploi de prime abord...
On manque de médiation. C'est-à-dire qu'on manque, entre les études qu'on se balance à la figure, chacun bien campé dans son camp idéologique... Et c'est le cas sur beaucoup de sujets qui ont trait à l'environnement. Prenez les bassines, prenez tout ça. Et personne n'essaye de chercher une sortie vers le haut qui pour tout le monde.
C'est-à-dire pour ça que les pouvoirs publics sont là pour justement essayer d'ouvrir une voie commune.
Bruno, très vite.
Pour détendre, je vois que Emmanuel a une dépêche d'agence qui nous dit qu'il y a une casserolade. C'est plutôt une poilade, non?
C'est un peu ça. Appelez ça comme vous, les casserolades ou poilades. Oui, il y avait du monde. Non, mais si. 600 salariés, aujourd'hui devant l'Assemblée.
Guillaume, on supprime les concurrents, c'est formidable.
Comme ça, il est venu agiter la menace de l'emploi. Ce qui était peut-être un peu facile aussi de la part du DG de CEP de venir comme ça, à brûle pour point, agiter la menace de l'emploi.
Il demande de l'argent pour la mauvaise raison.
Oui, exactement. Il ferait mieux de parler de ces innovations.
Rendez-nous les bonnes vieilles poils qui attachent, là, lesquelles il faut mettre un kilo
de beurre. Moi, j'ai quand même pas beaucoup de regrets par rapport à
ça. C'est du patrimoine, ça, quelque part. Allez, c'est terminé, 18h58.
Alors, on a.
Tu sais, c'est si bon d'être ensemble.
Ah, voilà.
On est réunis pour toi, pour ton anniversaire.
Pour ton anniversaire.
C'est l'anniversaire d'Emmanuel Le Chip. Comme on dit, vous ne les faites pas, Emmanuel.
Oh, c'est gentil, c'est sympa.
Ah bah, oui, enfin, vous ne les faites pas, on ne sait pas.
On ne sait pas, mais il ne les fait pas.
Il est 18h58 et j'ai 58 ans.
Eh bien,
en effet, voilà. Vous ne les faites pas.
Je disais qu'il
est voilà, mais c'est ce débat tous les soirs qui vous rajeunit, Emmanuel.
Qui maintient jeune.
Eh bien, c'est ça. Bah, continuez, changez rien.
Voilà.
Bah, merci, Emmanuel. À demain. Bruno et Nathalie vont revenir pour leur pénitence tout à l'heure, 19h15, 20h en direct. Et puis nous, on revient bien sûr dans un instant.
Eh oui, on continue de décrypter l'actualité économique pour vous. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, la deuxième heure de Good Evening Business. On est toujours en direct. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Beaucoup de choses encore ce soir, à commencer par Gabriel Attal qui a dû s'empresser d'aller démentir à l'Assemblée nationale cette fausse rumeur qui a circulé toute la journée, selon laquelle le gouvernement envisageait d'aller taper, disons-le comme ça, dans le livret A et l'assurance vie pour récupérer quelques milliards. C'est faux, mais on va reparler avec nos experts, bien sûr, qui reviennent dans un quart d'heure.
Oui, et puis on parlera aussi avec eux de Taïwan, le leader mondial des semi-conducteurs, TSMC, qui a interrompu brièvement sa production après le séisme qui a frappé l'île la nuit dernière. Alors brièvement, à tel point que le monde s'interroge sur sa dépendance. Et puis on parlera aussi de cette loi pour booster encore l'attractivité de la place de Paris, qui est arrivée à l'Assemblée aujourd'hui. Et enfin, cette polémique sur les polluants éternels. Il y avait quand même 600 salariés de SEB devant l'Assemblée tout à l'heure.
Alors, qui sera avec nous pour parler de tout ça? Nathalie Janson va revenir, Bruno Coquet va revenir, l'avocat Jonas Sadat sera avec nous et le journaliste Guillaume Duval. Ça fait beaucoup de monde ce soir.
Oui, ça nous promet un débat animé.
Ou en couleur aussi, pour le dire comme ça. Voilà, on est ensemble jusqu'à 20h, nous, bien sûr.
Votre rendez-vous avec Sage. Sage, la gestion intelligente qui réinvente la finance. Good Evening Business, le journal.
Donc ce séisme qui a frappé Taïwan la nuit dernière, le dernier bilan, je vous le disais, fait état d'au moins 9 personnes tuées et de plus de 900 blessés. La conséquence économique, c'est que plusieurs entreprises ont bouleversé quelque peu leur production. TSMC, leader mondial des semi-conducteurs, lit d'avoir interrompu brièvement. Le terme brièvement inquiète, cela dit, pas mal d'industriels. Marion Ziepfel est la correspondante de BFM Business en Asie.
TSMC compte 12 sites de production à Taïwan, et même si toutes les fabs, les usines de fabrication des semi-conducteurs, sont situées à plus de 4 heures de Hualien, la zone la plus fortement touchée par le séisme, tous les sites ont connu des perturbations, ont connu des interruptions plus ou moins longues de la production afin d'inspecter les équipements, afin d'évaluer l'impact du séisme sur la production. Selon certains experts, ces perturbations pourraient d'ores et déjà avoir des impacts sur toute la chaîne logistique des semi-conducteurs en Asie. De façon plus général, ce séisme illustre une nouvelle fois la problématique de la concentration de la production des semi-conducteurs à Taïwan. Taïwan vulnérable sur le plan géophysique, vulnérable sur le plan géopolitique. TSMC, qui contrôle à lui seul près de 60% du marché mondial des semi-conducteurs, entend bien rester à Taïwan, mais se développe à l'international avec des usines aux États-Unis, au Japon et une première implantation en Europe à Dresde, avec un début de chantier prévu pour le premier semestre 2024.
Marion Ziffel, la correspondante de BFM Business en Asie. En France, je vous le disais, cette chasse aux milliards qui commence sérieusement à crisper les esprits. Il y a une grosse rumeur aujourd'hui que Gabriel Attal a dû s'empêcher d'aller démentir à l'Assemblée. Rumeur selon laquelle le gouvernement entendait taper dans le livret A et l'assurance vie pour récupérer quelques milliards. C'est faux, archi-faux. Écoutez Gabriel Attal.
C'est dans cette même logique que nous allons travailler avec plusieurs parlementaires de la majorité qui accompagneront le gouvernement dans les prochaines semaines, dans cette même logique de taxation des rentes inframarginales d'énergéticiens ou de profits indus liés à la spéculation dans le cadre de l'inflation. Pas pour aller chercher, comme je peux le lire ici ou là, le livret A ou l'épargne des Français. La vraie différence entre nous et les oppositions dans cet hémicycle, c'est que nous ne nous opprendrons jamais aux Français qui travaillent, aux fruits de leur épargne, aux Français qui ont travaillé toute leur vie. C'est ça la vraie différence entre vous et nous.
Voilà Gabriel Attal tout à l'heure à l'Assemblée. Alors question, où le gouvernement va-t-il aller chercher ces quelques milliards, peut-être entre autres en taxant les rentes, comme disait le Premier ministre. En revanche, toujours pas question d'augmenter les impôts. Bruno Le Maire l'a encore redit ce matin dans une tribune publiée dans le journal Les Échos, je refuse de céder à la facilité coutumière des temps difficiles. Voilà ce qu'écrit notamment aujourd'hui encore le ministre de l'Économie et des Finances. 19h05, alors pendant que Gabriel Attal s'agitait dans l'hémicycle, il y avait aussi beaucoup de monde devant l'Assemblée. Bonsoir Nathan Cocampo, il y avait environ 600 salariés de SEB venus manifester contre une proposition de loi qui vise à faire disparaître ce qu'on appelle les polluants éternels. C'est ça Nathan?
Oui, si la loi passe, 3000 d'entre nous seront au chômage. Voilà le message martelé aujourd'hui par les salariés et syndicats présents devant l'Assemblée nationale. Pointer du doigt donc ces PFAS, ces polluants éternels utilisés pour produire des poêles dans l'usine du Rumi, notamment en Haute-Savoie. Des poêles principalement destinées à l'export. Derrière les poêles, nos emplois. L'écologie, oui, nous emploie aussi. C'est ce qu'on pouvait lire sur les pancartes des manifestants. Les syndicats et salariés l'assurent, la production est respectée. De l'environnement.
Tefal a fait un bond en avant au niveau technologique. Et tous les produits qu'il utilise aujourd'hui, ils ont une innocuité totale pour la santé. C'est reconnu par des scientifiques.
Je vais très bien, moi, il n'y a pas de souci. Moi, il me reste 10 ans à faire avant ma retraite. Moi, je me vois mal à 52 ans aller pointer au chômage et essayer de trouver du boulot, quoi.
Même son de cloche pour la direction de Tefal et SEB. Stanislas de Gramont, directeur général du groupe, s'appuie sur la science pour défendre sa production.
Vous avez un certain nombre d'autorités internationales qui sont censées d'ailleurs protéger les consommateurs et les citoyens, qui ont émis un point de vue scientifique sur ces sujets-là. Ce point de vue est balayé d'un revers de la main sur des questions d'amalgame. Ah oui, mais comme on ne sait pas, on va mettre tous les PFAS. Ben nous disons non, parce que nous pensons qu'il y a une autre manière de faire la loi qui fait appel à la science, qui fait appel à la concertation, qui fait appel à la raison et au bon sens. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui.
De nouvelles études européennes sur les PFAS sont attendues dans quelques mois. Le projet de loi sera présenté demain à l'Assemblée nationale et suscite déjà la réserve du gouvernement.
Bon, on suivra ça bien sûr avec intérêt. Merci beaucoup Nathan. Nathan Cocampo avec nous sur BFM Business. Pendant ce temps, l'Europe annonce qu'elle va lancer toute une série d'enquêtes contre des acteurs chinois. Du photovoltaïque, cette fois des géants que Bruxelles soupçonne évidemment d'avoir bénéficié de très larges subventions susceptibles d'avoir faussé bien sûr la concurrence. Et puis dans l'actualité des entreprises, CMA-CGM va rejoindre Renault et Volvo comme membres fondateurs de Flexis, entreprise dédiée à la production de véhicules électriques utilitaires légers. Flexis d'ailleurs qui, ça se précise, va lancer début 2026 une camionnette électrique dite polyvalente. Mais Luca De Meo, le DG de Renault, en a dit un peu plus à Justine Vassogne ce midi. Écoutez.
On présente une initiative ensemble qui tourne autour d'un produit révolutionnaire qui est Flexivan, qui est un nouveau projet qu'on a mis ensemble depuis maintenant deux ans et demi, et qui amènera, je pense, à complètement transformer le segment des véhicules utilitaires, surtout pour les livraisons de last mile, comme on appelle, donc plutôt le côté urbain. Donc on fait une voiture avec qui est née pour être électrique, avec un skate électrique très modulable, avec une nouvelle architecture électronique, avec la voiture qui est connectée au cloud et un concept de carrosserie aussi qui donnera beaucoup de flexibilité dans la production. Et la voiture sera produite à Sandouville comme on a annoncé vendredi.
Voilà Luca De Meo, le directeur général de Renault, aujourd'hui au siège du groupe du côté de Boulogne-Billancourt. 19h09 sur BFM Business. On retourne sur les marchés.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h13, rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Qui nous
en
évidemment jusqu'à 20h, puis nos experts qui sont toujours là. Nathalie Janson qui est revenue, professeure à Nouméa Business School. Rebonsoir Nathalie, rebonsoir Bruno.
Rebonsoir.
Bruno Coquet, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Guillaume Duval qui est avec nous, bonsoir Guillaume. Bienvenue, ancien rédacteur en chef d'Alternatives économiques. Et Jonas Haddad, Jonas bonsoir.
Bonsoir.
Vice-président et porte-parole de la Fondation Concorde. Alors on a beaucoup de choses ce soir, à commencer par cette chasse aux milliards qui commence légèrement crisper les esprit, Audrey. Tous les jours, désormais, il y a des ballons d'essai, il y a des propositions qui tombent. Il y a une sacrée rumeur qui a tourné il y a quelques heures, quand même.
En effet, rumeur selon lesquelles le gouvernement entendait taxer à la fois les livrets A et l'assurance vie, pour faire rentrer évidemment des milliards, mais démenti formellement de la part de Gabriel Attal tout à l'heure à l'Assemblée. On écoute tout de suite et on en débat ensuite.
C'est dans cette même logique que nous allons travailler avec plusieurs parlementaires de la majorité qui accompagneront le gouvernement dans les prochaines semaines, dans cette même logique de taxation des rentes inframarginales d'énergéticiens ou de profits indus liés à la spéculation dans le cadre de l'inflation. Pas pour aller chercher, comme je peux le lire ici ou là, le livret A ou l'épargne des Français. La vraie différence entre nous et les oppositions dans cet hémicycle, c'est que nous ne nous en prendrons jamais aux Français qui travaillent, aux fruits de leur épargne, aux Français qui ont travaillé toute leur vie. C'est ça la vraie différence entre vous et nous.
Bon, au moins c'est clair, le livret A ne sera pas un levier pour le gouvernement dans cette chasse aux milliards. On a quand même un record historique, 420 milliards d'euros, c'est une sacrée cagnotte. Alors ça s'explique par deux faits concomitants, à la fois c'est la surépargne des moments Covid, de la pandémie, et puis de la hausse des taux de rémunération. Mais donc, si le gouvernement n'y touche pas, si le gouvernement se met comme ligne rouge de ne pas augmenter les impôts, que va-t-il faire? Où sont les marges de manœuvre? Jonas Haddad.
D'abord, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce terme de rente que le gouvernement essaie d'installer. Vous voyez, c'est comme souvent...
J'ai eu le débat avant 19h, c'est qu'est-ce qu'une rente, voilà.
Exactement.
Pour les super profits.
Vous voyez, je suis absolument pas léniniste, mais Lénine disait, faites rentrer les mots, vous ferez rentrer les actions. C'est-à-dire que quand déjà on déplace le champ sémantique et qu'on parle de rente, c'est dingue. On parle de livret A, enfin, quand quelques personnes mettent pour les enfants de l'argent sur le livret A, parce que c'est beaucoup ça, c'est pas... Honnêtement, les grands financiers ne mettent pas leur argent sur le livret A. Quand on met un peu d'argent sur l'assurance vie pour échapper à l'enfer fiscal, je pense pas que c'est les grands financiers qui le fassent. Quand on met, quand on a un petit patrimoine et qu'on loue un petit peu de foncier, je pense pas que ce soit de la rente. La réalité, c'est que ce serait vraiment une rupture, j'allais dire ontologique, avec la doctrine macroniste qui consistait à dire à un moment, il faut que le capital paye davantage, puisqu'on est un des pays dans lequel le capital est le plus taxé et dans lequel il y a le plus de prélèvements obligatoires. Donc si on a gardé l'impôt sur la fortune immobilière, mais qu'on a baissé la flat tax, mais qu'on a tout fait pour redonner un peu d'attractivité au pays, et que là, on considère que tout ce qui est un peu de l'épargne et de la rente, je ne sais plus ce qui restera en fait.
Mais justement, en l'occurrence, ce que le gouvernement dit, c'est on n'y touchera pas.
Oui, mais alors on touchera à quoi?
Eh bien, c'est la question que je vous pose, Guillaume Duval.
Ils toucheront au smicard, comme d'habitude.
Avec le micro en face de toi, Guillaume.
Oui, bon... En ce qui me concerne, je ne trouverais pas gênant, enfin pas scandaleux qu'on touche effectivement au livret A et à l'assurance vie, parce que contrairement à ce qui vient d'être dit, c'est un placement qui est très utilisé par les riches, par ceux qui ont le plus de patrimoine.
Ils sont sacrément bêtes alors. Parce que livret A, il y a un, enfin, pardon, il y a un rendement, mais c'est le plus bas dans les rendements.
Alors
3%.
Par rapport à l'inflation, c'est...
Donc c'est utilisé aujourd'hui par des gens qui ont du patrimoine financier en particulier. Donc je ne vois pas pourquoi dans un contexte où on a un excès d'épargne en France, où on a une situation budgétaire très difficile, on n'y toucherait pas. Par ailleurs, effectivement, ce que ce gouvernement va faire, c'est qu'il va effectivement taxer davantage les pauvres. Il a déjà commencé avec les chômeurs, a annoncé la couleur avec les chômeurs. Il l'a déjà fait plein de fois depuis 2017 sur le logement, sur tout un tas de mesures. Il a toujours ciblé les pauvres parce que les pauvres ont cet avantage, c'est qu'ils votent relativement peu. Ils votent moins que les retraités, ils votent moins que les riches. Et c'est une des raisons pour lesquelles, par démagogie, vis-à-vis de sa base sociale de riches et de retraités, ce gouvernement préfère taper sur les autres.
Guillaume, sauf qu'en réalité, le gouvernement l'a dit aussi, augmenter les impôts, notamment sur les classes moyennes, c'est une ligne rouge qui ne sera pas franchie.
Oui, oui, mais c'est de la démagogie. Ce gouvernement s'est comporté comme des gougnaviers. Ils ont géré les finances publiques. Ils ont fait n'importe quoi depuis 7 ans et ils la ramènent maintenant en prétendant donner des leçons de bonne gestion alors qu'ils ont creusé les déficits et qu'ils ont fait exploser la dette comme seul Nicolas Sarkozy l'avait fait avant eux.
Bruno Coquet, un mot là-dessus. Ouais.
Oui, le ministre des Finances nous engueule parce qu'il a été impécunieux pendant des années. Bon, donc moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est où il veut aller. Donc aujourd'hui, on est le pays qui prélève le plus, on est le pays qui dépense le plus. On a un problème d'efficacité, il le dit dans son article, mais il ne dit rien...
Sur la méthode.
Sur la méthode. Son sujet, c'est de faire moins avec mieux. C'est pas de défeuiller la marguerite. Un coup, on dit, ah bah oui, je favorise les gens qui travaillent. Le lendemain, ah bah non, je vais pas taxer le livret A. Le surlendemain, je vais faire une taxe sur les rentes
infra-marginales. Non, mais là, on est dans une guéguerre politique. C'est pas une stratégie. On est dans une guéguerre politique, enfin, Guillaume.
Oui, non, mais le problème, c'est que... Actuelle. Non, mais qu'il y a quand même une espèce d'urgence économique.
Ah oui.
Donc, le point, c'est que la guéguerre politique, c'est sympa, mais la guéguerre pourrait se faire non pas autour de lignes rouges énoncées à la suite les unes des autres, mais autour d'une ligne de conduite claire. Et puis voilà, on y va. Mais là, en fait, on tourne en rond avec des arguments, des formules. Mais on, en fait, sur le fond, on n'avance pas.
Alors, un projet de société, en fait, c'est ça qui nous manque, Nathalie Jeanson.
Oui, oui, tout à fait. Enfin, je pense que, bon, contrairement à Guillaume, je serais moins. Je ne pense pas qu'il défait tant que ça de cadeaux aux riches. Parce que de toute façon, c'est toujours. C'est toujours pareil. Si vous n'avez pas de riches, vous n'avez pas d'activité. Donc bon, faire tourner un pays avec des pauvres, je ne pense pas que ça réussisse non plus. Mais après, on peut toujours essayer. Je pense pas que la richesse, elle a besoin d'être là pour pouvoir permettre le développement de projets entrepreneuriaux. Donc c'est pas en taxant et en faisant un effet repoussoir qu'on peut arriver à avoir un pays qui soit dynamique. Donc je pense qu'il faut quand même je dis pas que tout est parfait, mais en tout cas de ce point de vue là c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Je pense que c'était quand même la grande, voilà, s'il y a un truc qui était clair dans la politique de Emmanuel Macron depuis le début, c'était ça. Donc je pense que
alors à part ça, la CDAE qui a été un petit coup de canif dans ce contrat de confiance.
Mais bon, je pense que là au moins il y avait une ligne directrice. Ouais, il y a toujours eu cette ligne directrice. Effectivement, moi ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas une ligne directrice dans le pendant, c'est-à-dire du côté dépenses. C'est-à-dire, quand on veut effectivement stabiliser l'environnement fiscal pour essayer d'avoir un effet d'entraînement, il faut aussi, d'un autre côté, se dire avec les recettes que j'ai, qu'est-ce que je veux faire. Et là, on n'a pas tellement eu... Enfin, je veux dire, je trouve que ça a été un peu court sur le déploiement de ce volet.
Le problème, c'est qu'on disait tout ça, cette séquence est phagocytée, un, par le verdict des agences de notation en quelques semaines, et une espèce de guéguerre politique au sein même de la majorité, au sein du gouvernement.
Oui, mais dans la même journée, vous imaginez. Oui.
Ah ben ça fait quelques jours.
Là, ça
fait
la tribune du ministre de l'économie et le matin, le premier juste après.
Alors on y vient.
Ça me fait penser beaucoup. Je ne sais pas si vous avez tous en souvenir ce mécanisme-là, la TVA sociale, où à l'époque ça avait coûté énormément, même en nombre de députés à la majorité de l'époque, puisque
Quand Bourlaud fait sa boulette
face à Fabius. Et là, on se pose la question. Deuxièmement, c'est raison, non seulement il y a des totems pour le gouvernement, mais il y a aussi des totems pour les Français. Les Français sont très attachés à leur livret à l'assurance vie. Et contrairement à ce que vous dites, monsieur, dans une vision très manichéenne, je trouve, et c'est pas les pauvres et les riches. C'est notamment les classes moyennes qui ont une approche assez
C'est le patrimonial de base. Mmh. Si vous voulez, c'est le starter pack de quelqu'un qui veut mettre un petit peu d'épargne pour ses enfants. Et je pense qu'y toucher, et c'est ça qui est paradoxal dans ce que vous écriviez tout à l'heure, d'un côté, vous dites, le livret A, c'est quelque chose qui est utilisé pour les riches. Et dans la même phrase, vous dites, ah, finalement, ce gouvernement, il taxe les pauvres. J'ai pas compris, là.
Bon, Guillaume. Droit de réponse. Oui. Guillaume Duval.
Justement, il ne va pas y toucher. C'est pour ça qu'il va préférer taxer une fois de plus les pauvres, d'une manière ou d'une autre, en leur supprimant notamment des services publics.
Les services mais vous publics, pensez que c'est à ça qu'il pense quand il parle de rente ?
Les services publics, c'est les patrimoines des pauvres, de ceux qui n'ont pas de patrimoine, et c'est à ça qu'on va toucher une fois de plus, oui.
Mais quoi
comme rente, par exemple ? On va dégrader encore l'éducation, on va dégrader encore la santé. Le pire, c'est que ça ne servira même pas à avoir davantage de dynamisme économique, parce que si les gens sont malades et si les gens sont mal éduqués, il n'y aura pas non plus d'entrepreneurs et il n'y aura pas non plus de capitaux étrangers qui viendront en France. Ce gouvernement fait une fois de plus n'importe quoi, bon. comme depuis 7 ans.
Alors les impôts justement, alors Bruno Le Maire qui est au milieu de tout ça, c'est pour ça que je parle de petite guéguerre au sein de la majorité qui persiste signe, donc tribune ce matin dans le journal Les Échos, on va la voir si vous nous regardez à la télévision. Pourquoi nous ne montrons pas les impôts ? Drôle de justice, écrit Bruno Le Maire, dans un pays où 10% des contribuables payent les trois quarts de l'impôt sur le revenu, où la contribution exceptionnelle sur les revenus de 2011 est toujours en place depuis 13 ans. Je refuse de céder à la facilité coutumière des temps difficiles. Nous n'augmenterons pas les impôts. Voilà, c'est dit, c'est répété,
voilà, c'est pleinement assumé. Exactement, c'est clair. Mais après, il faut aussi voir ce qui fonctionne. Alors, je mettrai évidemment à Guillaume. Quand on voit que les licornes françaises, donc une licorne, c'est une start-up, une entreprise qui est valorisée à 1 milliard de dollars et plus, aucune n'a quitté la France. Et ça, c'est bien par rapport à la politique de l'offre qui est mise en place depuis 7 ans.
Aujourd'hui, enfin, la France a toujours été, en fait, malgré tout ce que les gouvernements successifs ont pu dire, relativement attractive pour le capital étranger. Elle a toujours été.
Elle a toujours été un des
points d'atterrissage principaux en Europe du capital étranger. Donc, c'est pas très nouveau. Après, pour que ça reste le cas, il faut effectivement investir plus dans le logement, investir plus dans l'éducation, investir plus dans la santé, parce que c'est quand on a un environnement de ce type-là qu'on a des entrepreneurs.
Les pays qui sont les plus dynamiques
sont aussi ceux où en réalité les inégalités sont les plus faibles, parce que tout le monde est bien éduqué, donc
bien soigné. Aux États-Unis, je ne pense pas que ce soit le pays des inégalités.
Les
États-Unis ne sont pas dynamiques, ils sont au bord de la guerre civile en permanence.
Je veux vraiment vous faire aucune offense, mais je regrette vraiment que mes professeurs d'économie à l'époque au lycée m'aient imposé de lire Alternative économique, parce que votre analyse économique, là, elle est digne d'un cours de crypto. Au marxisme d'il y a 100 ans, quoi. Je veux dire, en matière de dépenses éducatives, on est le pays en Europe qui dépense le plus en pourcentage.
Non.
C'est le premier. C'est le premier budget de l'État.
Et
pourtant, alors, on a une preuve sur le plateau.
Pourtant, on chute d'un point de vue de PISA. Donc, la preuve, c'est que ce n'est pas possible.
Ceux qui payons le plus
sur
mal,
le logement, c'est l'étouffement réglementaire qui produit la rareté et donc qui produit l'impossibilité de se loger. Et donc, en fait, vous mélangez des sujets qui ont attrait à des services publics ou des services sociaux, je dirais, avec des rentes qui permettent l'attractivité. Enfin, dernier point, ce que vous dites par rapport à l'attractivité est juste depuis une politique effectivement qui a été menée depuis quelques années, parce qu'on a inversé un trend. Et le chiffre le plus marquant, monsieur, vous devriez peut-être vous en inquiéter, c'est que notre industrie est passée en 40 ans, on fête les 50 ans de la mort de Pompidou, de 20 à 10% du PIB.
Oui, c'est de la faute des énarques et des polytechniciens, oui, c'est vrai. Et des,
mais attendez, là, vous avez un discours qui est plus démagogue que le démagogue du coin. Là.
C'est
la destruction de notre parc industriel.
Nathalie, avec votre casquette à la fois de prof et d'économiste.
On paye beaucoup moins les profs en France qu'en Allemagne, ça c'est une réalité.
Non, mais c'est. Oui, mais parce qu'on a une administration pléthorique au niveau de l'éducation nationale. Donc,
on ne met pas l'argent sur.
Voilà, on met pas l'argent là où il faut. Donc,
on met l'argent sur le non éducatif.
Exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, on dépense beaucoup, mais comme elle part beaucoup dans les structures et pas en bas pour ceux qui enseignent, forcément, on se retrouve avec un retour sur, je veux dire, une éducation qui nous coûte cher par rapport en fait à ce qu'elle délivre comme comme efficacité en termes d'apprentissage et d'encadrement des élèves. En plus, je pense que justement, on n'arrive pas à réformer. Et là, encore, je crois que les derniers épisodes ont été assez emblématiques. On n'arrive pas à réformer cette éducation nationale qui est trop grosse et qui est, et en plus les rares poches de concurrence qu'il y a pu avoir pour essayer quand même de faire un peu bouger tout ça, qui était le secteur privé sous contrat. Eh bien, en fait, il y a un rapport qui le démonte un peu. Et je trouve que c'est vraiment faire un procès d'intention à quelque chose qui, finalement, je dis pas que c'est parfait, mais c'est quand même mieux d'avoir plusieurs modèles et de pouvoir choisir et qu'effectivement, on est. Moi, j'enseigne dans une école de commerce. On a bien vu la vertu des écoles de commerce par rapport aux universités. Ouais. On a bien vu que grâce à ça, il y a des segments, enfin, en tout cas, il y a des pans d'enseignement de l'université qui se sont remués pour essayer, effectivement, de réagir.
Comment on a décalé le débat là.
Donc,
c'est ça le problème. Les hausses d'impôts n'est pas
voilà, sur pardon, monsieur.
Oui, non, mais alors, voilà, non, mais alors justement, si on en revient aux hausses d'impôts, bonne idée ou pas. Bruno Coquet, on est déjà sur la première place du podium en termes de prélèvement sur le capital et sur le travail. Enfin, on ne va pas faire plus.
Ah, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut réfléchir. D'ailleurs, il se répète, le ministre. Moi, je me rappelle, il y a 2-3 ans, c'était ça, on le voyait à la tribune du Sénat dire les impôts, ça suffit. Bon, déjà lui qui était un peu responsable de tout ça, mais bon. Et donc là, il nous redit la même chose, mais fondamentalement, il n'a pas avancé. Et par ailleurs, sa pratique, si on regarde la dépense sociale, comme il l'appelle, hein, moi je n'aime pas l'expression, mais celle de la dépense sociale, alors tout le monde a compris, vous savez ce que c'était la shrinkflation,
hein, oui.
C'est-à-dire le paquet de chips diminue, mais le prix reste le même.
Mais le prix reste le même.
Bon, ben là, c'est pareil, c'est la shrink-qualité, en quelque sorte, et donc du coup, les cotisations, les contributions restent les mêmes, et la dépense sociale se contracte.
Et la qualité du service public en face s'effondre.
Mais ça, c'est pas vraiment une stratégie. C'est le problème qu'il a. Alors, on a parlé de la suradministration dans l'éducation nationale, mais il a un problème dans l'ensemble des dépenses publiques, hors dépenses sociales. Les dépenses sociales ont leurs propres problèmes. Ce sont des assurances, il faut les équilibrer, etc. Mais toute la dépense publique hors protection sociale, il faut la regarder. Mais et il ne nous dit rien là-dessus.
Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce débat sur les augmentations ou sur les baisses d'impôts efface finalement le débat le plus important, qui est le débat à avoir sur les réformes structurelles, qui n'émergent pas du tout.
Complètement.
Sur ce qui est inefficace, les fonctionnaires ne sont pas par nature inefficaces. Ce qui est inefficace, c'est leur management. C'est la stratégie qui est poursuivie.
Bon, nous, voilà,
et donc ça, il nous dit.
Alors, c'est pas une question de casting, c'est une question de scénario.
30 secondes pour conclure là-dessus, Guillaume, effectivement. Voilà, le débat sur la.
Oui, mais de toute façon, enfin, qu'il y ait un problème d'efficacité de l'État en France, c'est clair. Hein. On a un appareil d'État qui a été construit par des généraux sur un modèle de l'armée verticale, etc. Ça fonctionne pas, et surtout, ça fonctionne de moins en moins.
Ça fonctionne quand les généraux sont choisis sur le champ de bataille et pas comme étant les meilleurs, les plus forts en thème à l'école.
Oui, c'est ça. C'est les plus forts en thème à l'école qui sont sortis des beaux quartiers et qui vont dans les écoles privées que madame apprécie tant et qui connaissent rien au pays.
Bah, franchement,
quand ils sont, quand ils sont à la tête. On peut pas dire ça, Guillaume.
Bah, si, écoutez, Emmanuel Macron, il a découvert la France quand il est devenu président. Quoi.
À l'époque où il y avait des résistants qui étaient à la tête de la France, et je recite encore Pompidou, on était la meilleure performance en termes de productivité dans le monde. Hein.
Absolument.
Bah voilà.
Ah bah. Oui, mais
ils n'avaient pas fait l'ENA, ils n'étaient pas passés tous par Janson, Stanislas et le.
Bon, il avait juste fait normal sup.
En tout cas, tout ça pour dire Bruno Le Maire l'a encore répété ce matin. Pour la énième fois en autant de jours, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Voilà.
Voilà.
19h30 sur BFM Business.
BFM Business présente. Good evening business, les experts du soir.
19h34 sur BFM Business. On voulait dire un mot de cette proposition de loi très attendue sur l'attractivité. On en parle avec Nathalie Janson, Jonas Haddad, Guillaume Duval et Bruno Coquet. Donc ça a commencé à être examiné en commission à l'Assemblée nationale, hein, Guillaume. Proposition de loi pour renforcer encore l'attractivité de la place financière de Paris.
Bah oui. L'idée, c'est toujours de favoriser le financement de l'activité par le marché, de manière générale, d'accroître les capacités de financement depuis la France. Depuis la France. Écoutez ce que disait tout à l'heure le délégué général de Paris Europlace, Jean-Charles Simon, qui était avec nous sur BFM Business. Ah, on l'a pas, Jean-Charles Simon. Bon, nous faire un plaidoyer pour le financement par le marché. Voilà, la capacité de la France à financer elle-même de plus en plus d'activités, de plus en plus d'entreprises. Favoriser l'entrée en bourse, évidemment, de plus en plus d'entreprises. C'est un projet sain, ça fait partie d'un projet global. Si on l'a, excusez-moi.
Allez, on écoute.
Allez, Jean-Charles Simon, 30 secondes.
Ça veut dire se donner les armes pour poursuivre la dynamique vraiment favorable, vraiment marquante, qui se passe depuis pas mal d'années, ouais, en faveur du développement de la place financière de Paris. Et c'est très concret. Dans 5 ans, fin 2017, fin 2022, 20 000 emplois dans Paris. Dans Paris, liés aux activités financières. Et ça va très au-delà de du seul effet Brexit. Il y a un, oui, effet Brexit qui existe, qui est de la relocalisation d'activités de Londres vers l'Union européenne, et dont Paris est le plus grand bénéficiaire. Mais c'est aussi un mouvement plus global où il y a les bonnes conditions pour faire de la finance en France.
Et oui, Paris est devenue la première place financière européenne en termes de capitalisation boursière. C'est un vrai cocorico et donc il faut consolider cet acquis. Jonas Hanan.
Alors il faut consolider, à mon avis, sur deux piliers. Mmh. Le premier pilier, c'est évidemment le pilier boursier qui a été évoqué. Donc ça, c'est très bien que sur des dispositifs techniques notamment, lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des frottements juridiques, on puisse bouger. Deuxièmement, le projet Attractivité contient notamment des sujets sur le capital investissement.
Oui.
Alors on a des très belle structure de capital investissement en France. Oui. D'ailleurs, on a besoin de les développer parce qu'il manque ce maillon de la chaîne parfois dans le financement. La seule difficulté qu'on peut avoir parfois, il faut se le dire, c'est que on a des cycles qui font que malheureusement, ces derniers temps, on a eu moins de levées de fonds. L'année dernière, tenez-vous bien, on a diminué de moitié le nombre de levées de fonds sur les entreprises,
oui,
technologiques.
Ça ne concerne pas que la France. Hein.
Non.
Ça ne concerne pas que la France. Mais justement, c'est dans ces moments de crise dans lesquels il faut bien rebondir pour faire en sorte que quand ça reprend, parce que les fonds d'investissement notamment commencent à avoir maintenant les poches qui se sont bien remplies, au moment où ils vont devoir, entre guillemets, déverser cette manne financière, ça puisse se faire sur des start-up françaises,
oui,
sur des entreprises
dans les
françaises,
meilleures conditions possibles,
sur des industries françaises, pour qu'au final, ce mouvement de relocalisation qui se passe notamment dans le pur financier ait lieu dans ce qu'on appelle le capital investissement, c'est-à-dire une partie financière, oui, et une partie d'économie tangible.
Projet Guillaume Duval, projet LOAP, ça veut dire la possibilité de financer des start-up qui iraient sinon travailler à l'étranger, grossir à l'étranger, créer des emplois à l'étranger plutôt qu'en France.
De toute façon, on a un problème qu'on a déjà évoqué dans l'épisode précédent, qu'on a un excès d'épargne des Français. Il faut réussir à dégonfler un peu notamment l'assurance vie et notamment le livret A pour l'orienter davantage vers des investissements productifs. Donc tout ce qui va dans ce sens-là, moi je suis tout à fait d'accord. Il y a en particulier des dispositions sur les droits de vote multiples.
Ouais.
Je crois qu'effectivement, un des problèmes qu'il y a aujourd'hui dans le capitalisme tel qu'il fonctionne, c'est que les actionnaires ont le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes droits de vote qu'ils s'engagent durablement au sein d'une entreprise ou qu'ils simplement papillonnent et qu'ils cherchent juste des plus-values à court terme. Donc là-dessus, le fait qu'on différencie en particulier les droits des actionnaires en fonction de ce type de choses, moi je suis plutôt pour et je pense que c'est favorable.
Donc un développement des entreprises et de leur financement qui doivent être accompagnés par un droit français compétitif avec des pratiques qui sont en fait hyper usuelles dans des pays comme les États-Unis. Nathalie Janson.
Oui, là on va quand même pas aller jusqu'à cette comparaison, je pense, parce que
je pense c'est notamment la facilité pour introduire les entreprises en bourse et puis aussi à la tenue à distance des assemblées générales,
D'être un peu plus flexible et moderne pour pouvoir pour pouvoir ouvrir plus de solutions, parce qu'effectivement après c'est un peu toujours le serpent qui se mord la queue dans le cas de la France, c'est-à-dire qu'effectivement c'est bien de mettre en place et d'attirer pour que y ait plus de d'activités financières. Mais d'un autre côté, si on a une appétence des Français en moyenne qui est assez faible pour le risque, eh bien, vous avez beau déployer tout ce que vous voulez, eux, ils y vont pas. Donc ça, alors après, effectivement, c'est le rôle des banques, du coup, d'y aller. Parce que si vous y allez pas, que vous laissez votre argent dans la banque, c'est à la banque de prendre cet argent pour, elle, éventuellement, le rebrancher sur le marché financier. Mais voilà, ça, c'est une limite. Et puis la deuxième, qui est mon cheval de bataille depuis longtemps, c'est que ça se passe mieux quand il y a des fonds de pension également. Parce que ça participe à animer le marché.
Ça, ça va pas plaire à Guillaume.
Le fléchage de l'épargne des Français vers le financement,
ça fait
l'économie,
ça fait des années qu'on en parle.
On n'a pas trouvé la martingale encore.
C'est le travail des banques. La transformation, comme on dit, c'est transformer de l'épargne liquide à court terme. Voilà, eux, ils font autre chose. chose. Donc de l'épargne liquide et à court terme en investissement long. C'est quand même ça toute l'affaire des banques en théorie. Et alors c'est pas la seule, mais bon en tout cas c'est à eux de faire ça. Et parce que le petit épargnant qui a le choix entre livret A et puis boursicoté, il sait pas forcément boursicoté quoi. Donc
faut
on a un momentum
sur cette
l'IRPME qui a été maintenue, la flat tax, là on peut envoyer les gens vers
Bruxelles. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de réponses.
Il y a un point quand même sur cette loi, c'est qu'il y a une autre demande. Il y a des demandes sociales. C'est-à-dire que il y a un argument qui est de dire que ces industries financières vont créer des emplois, mais en même temps, elles demandent des facilités pour licencier. C'est-à-dire le plafonnement des indemnités du barème Macron en volume, parce que c'est des gens très bien payés, donc évidemment, lorsqu'ils sont licenciés...
Et ça, c'est une entorse quelque part au droit du travail.
Ah oui, mais c'est une claire entorse au droit du travail. D'autant qu'en plus... Et il y a une deuxième chose, c'est sur les plans sociaux. C'est-à-dire le seuil des plans sociaux soit relevé de manière à ce que les obligations soient pas... Enfin, pour rentrer dans un plan social, il faille licencier plus de gens à la fois. Et donc, du coup, cette exception est un problème à tous les niveaux, à la fois parce qu'on s'adresse à des gens qui ont des salaires élevés, qui pourraient être payés
chose. Alors, on pense à la finance. On pense aux traders qui ont le beurre et l'argent du beurre, et donc un mécanisme peut-être adapté à un secteur en particulier.
Oui, mais leur rémunération pourrait être faite d'autre chose que de salaire.
On va jouer sur le variable, pour le coup.
Enfin, non, parce que c'est limité par une réglementation européenne qui limite les primes variables à 100% du salaire, de 100% dans certaines exceptions. Alors, à juste titre, ce que dit Jean-Charles Simon, mais le projet de loi également, c'est que c'est une industrie cyclique. Mais justement, quand l'industrie est cyclique, les primes disparaissent. Donc, il n'y a qu'à fixer des salaires bas et puis de trouver... Parmi les mandataires sociaux, on trouve à les rémunérer, on trouve à rémunérer les gens avec des retraites chapeaux, des fonds de pension, des tas de choses qui échappent au salaire. Et donc, du coup, je pense que c'est peut-être aussi possible sans avoir à toucher au droit du travail.
Oui, et puis quand même sur l'attractivité de manière générale, Emmanuel Macron continue de parler de cette fameuse union de marché des capitaux au niveau européen.
Oui, mais si ça se fait, il faut qu'on soit en lead pour le dire en mauvais français. Parce que si ça le fait et qu'encore une fois on perd, alors on a la chance c'est qu'on n'est pas battu par Francfort. Alors il y a un cocktail, on en parlait tout à l'heure hors micro, c'est vrai qu'à Francfort c'est un peu moins fun de vivre à Francfort qu'à Paris ou qu'à Luxembourg. Ça, c'est vrai qu'il y a d'autres choses. Et donc il y a l'effet Frexit, mais il y a aussi l'effet en quoi la France est belle et attractive. Il y a aussi de ça, il y a un effet magie.
Proposition de loi arrivée aujourd'hui à l'Assemblée, donc pour accroître l'attractivité financière de la place de Paris. Alors sinon, il y a un sujet qui a fait beaucoup causer aujourd'hui, on voulait avoir votre avis là-dessus, c'est ce qui s'est passé devant l'Assemblée. Il y avait 600 salariés de SEB et des dirigeants aussi qui sont venus manifester contre une proposition de loi portée par un député écologiste, proposition qui vise à interdire l'utilisation de produits contenant ce qu'on appelle des polluants éternels.
Ah oui, et ça concerne beaucoup de secteurs, des cosmétiques au textile d'habillement, mais aussi entre autres des produits d'électroménager comme ceux que fabrique la marque SEB. Et son directeur général était dans la manifestation. Il l'a dit clairement, faire passer cette loi, ça pourrait jouer sur l'emploi. On l'écoute tout de suite.
Nous avons un certain nombre d'autorités internationales qui sont censées d'ailleurs protéger les consommateurs et les citoyens, qui ont émis un point de vue scientifique sur ces sujets-là. Ce point de vue est balayé d'un revers de la main sur des questions d'amalgame. Ah oui, mais comme on ne sait pas, on va mettre tous les pifaces. Ben nous disons non, parce que nous pensons qu'il y a une autre manière de faire la loi qui fait appel à la science, qui fait appel à la concertation, qui fait appel à la raison et au bon sens. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui.
Oui, alors ça me rappelle le discours, les PFAS, oui. Ça me rappelle le discours que les industriels avaient sur le sujet de l'amiante, en disant bah c'est pas si grave que ça. Et finalement, on s'est rendu compte de tous les dégâts que ça a fait sur la santé. Et puis on l'a interdit, mais bien trop tard. Est-ce qu'on n'est pas dans ce même déni, Guillaume Duval?
Écoutez, moi je suis pas un spécialiste, je suis pas un scientifique, mais ce que je constate, c'est qu'effectivement on a des problèmes d'infertilité de plus en plus important, de stérilité, de cancer, etc. Ces produits s'appellent des polluants éternels parce que effectivement ils se détruisent très difficilement dans la nature. J'aurais tendance à effectivement privilégier un peu la prudence sur ce type d'usage. Après, on en discutait aussi tout à l'heure. C'est vrai qu'on a vécu quand même pendant quelques milliers d'années sans toutes ces choses-là. Il y paye, on a réussi à faire la cuisine, mais...
On n'a plus le droit au barbecue non plus, donc...
C'est pas bon pour la santé, le barbecue.
Peut-être qu'on trouvera d'autres substituts.
Oui, mais le problème, c'est que, en fait...
Si vous voulez, les industriels se plaignent toujours, et puis quand on les force, ils finissent par trouver des substituts et des nouveaux produits. C'est une manière de doper, en fait, l'innovation que de les pousser un peu.
Oui, c'est ça, mais est-ce qu'on n'aurait pas préféré entendre le directeur général de SEB parler de l'innovation et des innovations sur lesquelles il travaille plutôt que de dire mais non, on s'accroche à ça parce que finalement c'est pas si dangereux que ça alors qu'il y a des études contradictoires.
Alors, ils innovent sans doute en coulisses.
La première chose, on peut avoir un consensus sur ce sujet. Si c'est bon pour la santé, il faut y aller, je veux dire, à un moment. Mais encore une fois, la science comme boussole. Deuxièmement, la réalité, c'est que si nous, c'est ça la vraie question pour moi, si nous le faisons, mais qu'à côté de ça, on peut avoir des poêles chinoises dans les rayons et qu'on n'interdit pas cette possibilité de le faire.
Alors justement,
la loi l'interdit justement.
La loi Bruno Coquet,
Monsieur Seb devrait être content.
Donc je pense qu'il faut faire un peu comme ce qui a été fait avec les pailles ou les choses comme ça, c'est de pouvoir mettre une clause qui permet d'éviter l'import de ces choses-là. Et donc, attention, et je termine par là, il faut quand même se dire que si on veut un moment montrer la voie, on a le marché européen, qui est le premier marché européen en matière de consommation, notamment sur ces questions-là. Et donc, vous avez le 9 juin des élections européennes, c'est des sujets sur lesquels on pourrait avoir des réglementations européennes. Parce que si on a, encore une fois, comme toujours, Non, pourquoi? Pourquoi ce procès d'intention? Non, si c'est bon pour la santé, vous savez, on est
Vous dites quoi, Guillaume?
Vous faites un peu maniqué, hein. C'est-à-dire qu'en gros, on est des méchants. Si c'est bon pour la santé.
Crieriez au loup s'il y avait des réglementations, c'est ça que vous voulez dire?
Mais qui, vous?
Mais là, pour une fois,
Bruno Coquet.
On a une loi.
Alors, Monsieur Seb, ce gour de combat, en gros.
Mais oui, ce gour de combat, on lui supprime sa concurrence, puisqu'on interdit l'importation, on interdit la vente et on interdit la production. Et donc, du coup, lui, il se retrouve dans
un marché
plus innovant.
Il a un champ vert. Oui, mais lui aussi, il produit des boîtes
de PFAS. Avec quand même un petit étonnement, ce qui est possible.
Lui aussi produit à la base de PFAS, eux aussi.
Oui, mais le problème, c'est que moi, ce que je ne comprends pas dans l'affaire, c'est que, bon, très bien, Monsieur Seb pourrait en profiter, mais quand même, c'est ce que demandaient les agriculteurs par rapport aux pesticides. Et on leur a expliqué que ça n'était pas possible parce que cette espèce de réciprocité ou d'interdiction au nom de raisons sanitaires en France des produits produits avec des pesticides, c'était pas du tout possible. Mais là, ça devient possible pour les poêles à frire. Et donc, du coup...
montants financiers et les enjeux ne sont pas les mêmes.
Audrey, est-ce que je peux être taquin?
Oui, mais la logique est la même.
Vous êtes là pour ça, Jonas.
Les députés écologistes souhaitent l'interdiction, et là, je vais reprendre mon chapeau de méchant, ils souhaitent l'interdiction des bifas. Par contre, ce sont les mêmes qui, il y a quelque temps, ont fait une proposition de loi pour dépénaliser le cannabis, qui, comme on le sait, est une substance et qui est excellente pour la santé. Vous voyez, en fait, quand l'idéologie
remplace
le réel...
Alors, c'est une question de volume.
Je pense
Mais si la santé est votre boussole, vous ne faites pas des
bêtises. C'est ce qui a énervé M. Seb. Voilà, tout simplement, je pense que c'est l'origine de la proposition.
Non, mais il est arrivé en mettant tout de suite dans la balance l'emploi.
C'est le truc fastoche.
Bah, évidemment que c'est fastoche.
Il a surréagi à quelque chose qui l'a énervé, parce qu'effectivement, pourquoi ce combat-là et pas un autre? Et du coup, pour marquer les esprits comme les autres ont marqué les esprits avec PFAS, c'est horrible, alors qu'il y a d'autres choses aussi horribles, quoi. Eh bien, il a dit, vous allez voir ce que vous allez voir, il y aura un effet sur l'emploi. Enfin voilà, là, on est dans le théâtre, en fait. L'effet de théâtre. Ce qui est effectivement dommage, parce qu'il aurait pu être beaucoup plus fin et effectivement lui dire ah ben on est déjà en train de travailler sur des produits innovants ou j'en sais rien,
il aurait pu s'en sortir autrement.
En plus, oui, c'est sûr.
Oui, c'est ça. Mais peut-être en tout cas, il ne l'a pas dit.
Oui, mais c'est dommage.
Ils ont quand même réussi à.
C'est vrai que ce serait mieux si c'était une réglementation européenne qui s'appliquait déjà. Mais aujourd'hui, malheureusement, il est devenu quasiment impossible de faire adopter ce type de réglementation à l'échelle européenne. Madame von der Leyen répète tous les jours qu'elle veut moins de régulation, plus embêter les entreprises, etc. etc. Donc c'est pas dans l'air du temps. Mais c'est vrai que ça ferait beaucoup plus de sens si c'était pris au niveau européen plutôt que
c'est pas celle, en France. Alors pour le coup, c'est pas Ursula, c'est les États membres. Quand quelqu'un dit non en Europe, c'est d'abord des États membres.
Vous avez raison.
Voilà, la Commission normalement propose.
Bon. La solution au niveau européen.
Il reste 4 minutes avant vos avis, donc je vais vous faire choisir. Vous voulez parler de TSMC ou vous voulez parler du classement Forbes? Voilà, on va voter. Qu'est-ce qui vous intéresse?
Difficile. On pourra pas choisir, c'est renoncer.
Le classement Forbes 2.
Dernier classement Forbes qui est sorti aujourd'hui.
Dernier.
milliardaires.
On fasse le commentaire des milliardaires.
Bon,
on peut, hein. moi, je préfère sur TSMC, si ça vous
dérange. Oui, d'un mot, allez. Alors, donc, TSMC qui dit on a interrompu brièvement notre production de semi-conducteurs, ce qui inquiète la planète entière, tant la diminution de TSMC est forte aujourd'hui dans le monde. Quoi.
Voilà. C'est-à-dire que vous voyez, en fait, la dépendance aujourd'hui de l'économie vis-à-vis de la géopolitique, et vous voyez notre dépendance aujourd'hui vis-à-vis de systèmes géopolitiques que nous ne contrôlons plus. C'est-à-dire cette incapacité aujourd'hui qu'on a pu avoir à prendre le virage. Encore une fois, souvent on oppose l'industrie et les nouvelles technologies. Or, on voit bien ici que l'industrie, c'est les nouvelles technologies et vice-versa. Et notre retard en matière de capitalisation, de robotisation, a fait qu'on n'a pas du tout pu développer ce genre de processus. Évidemment, on n'a pas les matières premières.
Oui, alors sauf que, en fait, avec une dépendance géographique qui est en train d'évoluer, puisqu'il y a des usines qui vont s'ouvrir aux États-Unis, au Japon et aussi en Europe.
Et le pire, c'est que sur les machines qui servent à faire ces produits sont en réalité des machines souvent européennes. Enfin, en tout cas, il y a une société néerlandaise qui est leader dans ce domaine. Donc, on devrait pouvoir effectivement.
On s'inquiète.
Limiter cette dépendance.
On s'inquiète de l'interruption de production de quelques heures, on ne se pose pas la question de savoir ce qui se passe si demain la Chine envahit Taïwan, ce qui est toujours une
question. Mais si, on se pose la question. Un orage solaire nettoie tout ça. Donc
on a les aléas climatiques, naturels et géopolitiques.
Mais le point, c'est que moi, je pense que le côté positif de l'affaire, c'est que les confinements divers et variés suite au Covid dans le monde nous ont permis de nous rendre compte qu'on était fortement dépendant à l'Asie de ces microprocesseurs.
Mais les Américains réagissent très vite. Intel qui accélère avec la bénédiction de l'administration américaine, mais l'Europe qui se met en ordre de bataille.
Les Européens aussi, puisque TSMC ouvre en Allemagne. C'est en Allemagne. Intel ouvre en Allemagne. En France, on a STM qui ouvre aussi.
Alors, après, mais c'est acteur microscopique.
Il y a plus ces puces.
ASML, le gouvernement néerlandais est obligé de faire un chèque de 2-3 milliards d'euros pour qu'ASML ne délocalise pas massivement ses unités de production à l'étranger, en dehors d'Europe. Donc vous voyez, on est quand même un petit peu...
Oui, mais le point, c'est que moi, je pense que c'est un domaine où on a fait quelque chose. Alors peut-être on peut faire plus, peut-être on peut diversifier plus, peut-être qu'il faut une surcapacité pour se couvrir contre des incidents X ou Y, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a fait quelque chose dans ce domaine.
Bon, les Français ont beaucoup de ressources. Il faut voir Christian Louboutin, par exemple, qui vient de rentrer justement dans le fameux classement Forbes des milliardaires.
Oui, je pense qu'il ne faut pas non plus toujours... faut toujours regarder sans doute vers l'avenir et se dire que, en effet, le Covid a quand même eu le mérite de montrer qu'une dépendance un peu trop forte, parce que bon, les dépendances, on les a, c'est le fait même de l'activité eux-mêmes, on est toujours dépendant.
Non, mais sur les terres rares, principalement.
Mais mais parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas non plus remplacer aussi facilement et qu'on ne peut pas avoir, mais effectivement, je pense que ça donne à réfléchir et peut-être que, enfin, je veux dire, le futur ne sera sans doute plus. Il y aura des stratégies certainement plus intelligentes que jusqu'à maintenant, parce qu'on s'est rendu compte de la limite des stratégies qu'on avait mises en place jusqu'à maintenant.
Bien, on n'aura pas le temps de parler du classement Forbes, malheureusement, et de Taylor Swift. Taylor Swift est entré dans le classement. Bernard Arnault toujours
avec
en tête.
Christian Louboutin, c'est pas mal, ça
effectivement
ses stories quand même.
Des Français qui rentrent, Christian Louboutin effectivement qui rentre. Bernard Chalès, le PDG de Dassault Systèmes, qui rentre dans le classement. Notamment l'extra time, donc vos humeurs du soir, coup de gueule ou coup de cœur sur 30 secondes, c'est la règle impitoyable de cette émission. Nathalie, est-ce que vous voulez commencer? Allez.
Oh, moi oui, c'était juste avant le week-end de Pâques, j'ai trouvé ça très drôle comme histoire. Quand on dit que le système bancaire est hyper efficace et que les cryptos ça sert à rien, on annonçait qu'en fait certains n'allaient pas être payés avant le mardi parce que le vendredi était le vendredi saint dans certains pays et qu'à cause des activités bancaires, on avait du J+4 qui allait se faire. Donc c'était très drôle parce que finalement en 10 minutes on peut se faire un transfert de monnaie en crypto. Donc c'est sûr que c'est vraiment très archaïque comme système.
L'économie peut aussi nous faire rire. Bruno Coquet, c'est à vous.
Le président de la République a proposé un passerail l'automne dernier.
Oui.
Et le passerail ne va pas se faire. Donc pourquoi? Parce qu'on est au débat autour de 45 euros, tout ça. Moi, ce qu'on connaît depuis longtemps, c'est la carte Interrail qui nous a permis de. Mais oui, mais qui existe toujours. Pour 250 euros, on peut voyager dans l'Europe entière. Alors c'est un peu compliqué pendant 7 jours, etc. Prendre le train dans certains pays, mais pas d'autres. Mais en tout cas, on peut voyager largement en dehors des frontières. Mais à l'intérieur de la France, on n'y arrive pas. Donc ça, je pense que c'est quand même un grave souci.
Bah, tout le monde n'est pas d'accord du côté des régions, apparemment. C'est ça qui est le résultat elle-même. Guillaume Duval, allez, c'est à vous, on vous écoute sur 30 secondes, Guillaume.
Moi, j'ai surtout été très choqué par ce qui s'est passé ce week-end à Gaza. C'est vrai que ce n'est pas un sujet très économique, mais je pense que ça risque malgré tout... Enfin, l'inaction des pays occidentaux, de la France, de l'Europe, par rapport à ce conflit, risque d'avoir des conséquences très lourdes pour notre avenir. y compris sur le plan économique.
Voilà pour le Google ce soir de Guillaume Duval.
Jonas Haddad pour clore le bal.
Jonas. Alors oui, moi c'est l'utilisation de mots qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et je reviens sur le mot rente. Je n'aime pas que le débat politique confisque des mots. Ce n'est pas une rente que de mettre un peu d'argent pour ses enfants sur le livret A. Ce n'est pas une rente que de mettre un peu d'argent pour une assurance vie lorsque vous avez un conjoint et que vous ne voulez pas vous faire étrangler fiscalement. Et non, ce n'est pas une rente de percevoir un petit loyer lorsqu'on est un petit propriétaire. Arrêtez de tordre les mots pour tordre la réalité.
De la même manière que je ne suis pas tout à fait sûr qu'on puisse dire que EDF soit rentier vu l'ampleur des dettes.
Et non, et surtout vu ce qu'on leur a fait subir avec la REM.
Aussi.
Non, mais on sent bien que c'est du côté des énergéticiens. On sent bien que c'est du côté des énergéticiens qu'on va encore aller chercher quelques millions. C'était quoi la ronde sur les énergéticiens? 300 millions, voilà ce qu'on a récupéré.
Sur les énergéticiens,
600 millions.
3 milliards au lieu de 12. Sur les rentes inframarginales.
Ah, sur les rentes inframarginales.
Mais vous savez, on serait en train de débattre de comment on taxe les super profits encore plus si on n'avait pas détruit notre filière nucléaire. On serait aujourd'hui les rois de l'énergie et les rois du pétrole.
Et puis il y a un peu de marché européen d'électricité là derrière.
Ça sera le prochain sujet du prochain débat.
Oui, parce que nous sommes au bout malheureusement. Merci beaucoup d'être venus tous, toutes et tous. Nathalie Janson, Bruno Coquet, Guillaume Duval et Jonas Haddad. Merci à tous les quatre. À très vite avec plaisir pour de nouvelles aventures. 19h55, bah oui, c'est fini.
Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Ceci dit, pas de panique, puisque si vous voulez retrouver ce débat, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code en replay. Sinon, c'est sur les plateformes, sur bfmbusiness.com. Et puis, bien sûr, on se retrouve demain soir.
Absolument, demain soir, 18h-20h pour Nouvelles Aventures. Dans un instant, Tech & Co, spécial AWS Summit. C'était aujourd'hui porte-maillot à Paris. Vous allez retrouver bien sûr François Sorel et toute son équipe. Et on se retrouve nous demain soir, évidemment, 18h. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.